Barça, quel sera le score final? Etienne Moati.
1 partout.
Jérôme Alonso.
2 à Paris.
Bertrand Latour.
À mon sens, il y aura 3-2 pour le Barça.
Bernard Lyons.
Il y aura 2-2.
Et enfin, Joël Micou.
0-1.
Et c'est Bertrand Latour qui remporte la mise. 3-2 pour le Barça. Bertrand, quoi, félicitations.
L'Anti-France encore gagné.
Félicitations Bertrand. Vous allez avoir à la fin de l'émission le quiz, vous aurez les deux jokers.
Voilà. Bah c'est bon, c'est bien. Ah, bah, bon, oui, évidemment pour le football raison, français,
les deux jokers, car il a le bon prono. Vous suivez ou pas?
Non mais d'accord, mais c'est celui qui a le plus de points, non?
Non. Là,
d'accord, c'est un arrangement entre amis, quoi. Notre journaliste,
on ne cherche pas les
entre amis. Okay. Mes petits, c'est une défaite qui vous énerve. Voilà.
Autant dire qu'on
sera là. C'est une défaite qui vous énerve. Vous retenez Luis Enrique, sa compo de départ ou son coaching. Quel joueur du match? Mbappé flop, est-ce un mauvais match ou un très mauvais match? Vous avez les raquettes, on notera. Donnarumma, est-ce que c'est lui un peu ce soir qui coûte la défaite? Il y a une grimace de l'ami Jérôme Alonso. Mes petits 3-2, on va tout de suite regarder les images avec Virginie. Virginie, bonsoir. 3-2 pour le Barça. Donc le Barça est en ballotage extrêmement favorable pour allier les demi-finales avec des champions.
Bonsoir tout le monde. Paris est d'abord logiquement sanctionné après un début de match raté. Lewandowski pour Yamal à la 37e, centre parfait de l'extérieur du gauche. C'est mal dévié par Donnarumma, le ballon arrive sur Rafinha. Égalisation grâce à Dembélé à la 48e, le crochet puis le missile du gauche pour enflammer le Parc des Princes. Le collectif enchaîne avec Kangin Lee pour Ruiz qui donne à Vitinha pour son 8e but de la saison. Paris prend l'avantage. Mais le Barça revient sur une mauvaise relance de Donnarumma et une passe parfaite de Pedri pour Rafinha, le doublé de l'attaquant brésilien. Il repasse même devant les Blaugrana sur un corner tiré par Gundogan, repris de la tête par Christensen. 3-2 pour Barcelone.
Voilà, avec quelques erreurs défensives que vous avez notées, chers téléspectateurs. Est-ce une défaite qui vous énerve? Vous êtes énervé ce soir, chers téléspectateurs. Vous allez sur le site L'Équipe, il y aura des notes, il y aura des réflexions. Virginie est là et prendra vos dépositions. C'est la greffière de L'Équipe du soir. Habillage à l'américaine, défaite qui vous énerve, mes amis? On l'a pas un petit habillage? Non, d'accord, ok. Etienne, énervé ou pas?
Bah oui, bien sûr.
Oui, ok. Monsieur Alonso?
Comme Etienne.
Comment? Comme Etienne, d'accord. Monsieur Latour?
Non.
Non, d'accord. Bernard, contrat ou pas contrat?
Pas contrat.
Pas contrat? Bon, bah écoutez, on est dans le mille, hein. Président, à vous de jouer, vous regardez, vous faites l'amour à la caméra, vous parlez anglais, enfin, vous avez l'habitude.
Jingle.
Il y a deux énervés, Alonso et Moati, Étienne ou Jérôme, qui commence?
Choisis, Étienne.
Bon, je vais démarrer.
Ok, il prend la main, Étienne, Moati, ils ne sont pas énervés, c'est Bernard et Bertrand, les bébés, qui commencent?
L'expérience okay. De Bernard.
L'ancien, le docteur Blatt. Une défaite qui vous énerve, Étienne Moati est énervé, ne criez pas Étienne, les micros sont réglés, c'est à vous, vous avez 30 secondes, une trentaine de secondes, allons-y.
Mais oui, bien sûr, c'est énervant parce qu'on a l'impression que ce Paris Saint-Germain n'apprend jamais. Il n'apprend jamais donc pour les grands matchs, il n'apprend jamais à mettre son équipe en place, il n'apprend jamais à dégager une équipe type, il n'apprend jamais à pas faire des choix initiaux qui sont quand même étranges, il n'apprend jamais à mettre l'intensité qu'il faut dans un match de Coupe d'Europe et il n'apprend jamais à, quand il a pendant quelques semaines, quelques mois, peut-être un des meilleurs gardiens d'Europe, toujours les mêmes erreurs de gardien qu'on n'attendait plus parce que Donnarumma, il est exceptionnel depuis un moment. Tout ça, c'est franchement énervant. Il rencontre pas un immense Barça et il perd au pas.
Bernard, vous avez entendu l'énervement d'Étienne, vous ne le partagez pas peut-être. Quelle est votre lecture du match?
La sagesse déjà, puis je ne m'énerve pas. Non, mais j'aurais été énervé s'il y avait des faits de match qui auraient été contraires au Paris Saint-Germain, qui auraient coûté le résultat. Alors ce n'est pas du tout le cas. Moi je trouve que c'est une victoire assez logique du Barça. Tu as d'un côté une équipe qui a joué deux fois un quart d'heure et qui a gagné 2-0. Puis de l'autre côté, tu as une équipe qui a joué une heure et qui a mis trois buts. Donc au final, ça fait 3-2 pour le Barça. Il n'y a rien d'énervant là-dedans.
Jérôme, vous avez écouté la partie d'en face, qu'avez-vous à répondre?
Le pire, c'est qu'il y a des arguments qui me vont bien. Mais effectivement, je suis énervé parce que tu as joué deux fois un quart d'heure. Je suis énervé parce qu'effectivement, ton gardien, qui est un des meilleurs du monde depuis 4 mois, ce soir, il passe complètement au travers. Je suis énervé parce que ton meilleur joueur de champ passe complètement au travers. Je suis énervé parce que tu as un coach qui est géo-trouve-tout et qui parfois qui cherche beaucoup et que s'il y a des gros matchs, il ne trouve pas beaucoup. Bien sûr, quand tu es attaché à ce club, tu es obligé d'être énervé parce que c'est frustrant. C'est pas un grand Barça. Ce soir, il y avait mieux à faire. Donc oui, je suis très énervé pour toutes ces raisons et bien d'autres encore.
Ok. Il vous reste une seconde et 7/10. Gardez un petit peu de fiel. Bertrand Latour, pas énervé. Pourquoi?
Parce qu'on peut être énervé quand il y a des erreurs d'arbitrage, quand vous êtes supérieur à l'équipe adverse et que vous perdez le match bêtement. Là, c'est pas le cas. Je pense que la meilleure équipe à gagner. Je pense également que ce match remet le Paris Saint-Germain à la place qui est la sienne et que la série d'invincibilité qui était la sienne ne correspond pas nécessairement au niveau qui est le leur parce qu'ils n'ont pas rencontré d'adversaire suffisamment bon. Parce que ce qui a fait la force de Luis Enrique jusqu'à maintenant de changer sans arrêt d'équipe, c'est difficile de le reprocher uniquement ce soir aussi. Donc pour moi, le meilleur à gagner, je vais laisser Bernard les défoncer jusqu'au bout.
Ok, non, on repasse du côté de la partie d'en face, les énervés. Vous avez une seconde, 7/10, qu'avez-vous à rajouter?
Bon, moi j'ai vu que dès que Paris a poussé, le Barça a tremblé.
C'est bien, mais on a compris l'idée quand même. On a compris l'idée, Étienne. Encore un petit SMS, SOS.
C'est une défaite qui est dans le prolongement de ce qu'ils font depuis plus d'un mois au championnat.
Ok. Pas forcément surpris. Vous allez sur le site L'Équipe. Vous êtes énervé. C'est Étienne et Jérôme. Vous n'êtes pas énervé. Non, non, il y a une forme de logique dans tout ça. C'est Bernard et Bertrand. Président, à vous de jouer. Président, vous êtes de droite ou de gauche sur cette question, évidemment. Hein, c'est une question sportive.
En tant qu'ancien footballeur, normalement de droite, mais on va...
Attention Bertrand.
Dans les médias de gauche, toujours.
Oui, attention Bertrand, parce que.
Mais après, face aux banquiers.
Ça peut s'agacer du côté de.
Qui défiscalise, c'est forcément de droite.
Bernard, pour la clarté de l'émission, quand je l'ouvre, ne l'ouvrez pas, parce que sinon, ça fait. Voilà. Oui, pardon.
De glaçons.
Merci beaucoup. Vous pouvez y aller.
Non, je vais être de l'avis du côté droit, parce que, comme l'a fini Bernard, moi, je trouve que c'est la continuité de ce qu'ils font, peut-être pas depuis qu'un mois, depuis même plusieurs mois. C'est une équipe qui joue par à-coup, qui n'est pas capable d'être régulière sur la totalité d'un match. Et puis, elle l'a démontré ce soir. Elle fait deux premiers quarts d'heure. Elle rentre bien dans le match, en première mi-temps et en deuxième mi-temps. Et après ça va plus. On perd le fil. Et puis, on est puni par une équipe qui est supérieure à elle. Et en championnat, ça passe. En Ligue des Champions, sur certains matchs, ça passait par rapport à des adversaires qui étaient peut-être moins talentueux. Là, quand t'as une équipe qui est en place et avec du talent, tu es puni. Donc, on espère que ça va s'inverser dans une semaine. Mais voilà, il faudra faire beaucoup plus d'efforts.
Moins d'une semaine, le match retour, c'est.
On est sur un relooking là.
C'est fait un brushing, il s'est cassé là.
Voilà, ouais.
Il est passé.
Giovanni, hashtag pas inquiet Castaldi avant le match.
Giovanni Castaldi, est-ce une défaite qui vous énerve? Le plateau est partagé. Vous êtes énervé ou pas énervé? Oui, non, pourquoi? Bonsoir Giovanni.
Bonsoir mes bébés, bonsoir à tous. J'ai juste mis des lunettes, Virginie, c'est pas un relooking, j'ai mal aux yeux. Mais énervé, c'est un bien grand mot. Je trouve qu'elle peut être frustrante parce que bon, la première période elle est catastrophique, à part les 10 premières minutes, je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Mais je rejoins assez l'argument d'Étienne. Ça m'a plu sur le côté où quand on a vu un Paris Saint-Germain qui a poussé, qui était sérieux, qui était appliqué, je trouve que le Barça était en grande difficulté. Quand tu renverses en plus un match émotionnellement dans un Parc des Princes ce soir, qui a été fantastique. Alors je dis beaucoup de mal des supporters de manière générale, mais là ce soir grand coup de chapeau parce que le Parc des Princes était niveau Ligue des Champions. Il y a eu une ferveur incroyable. Que t'inverses et qu'émotionnellement tu redomines la rencontre, que les Barcelonais ont en coup d'air le casque et ça se sent. Tu dois être capable d'appuyer, d'aller marquer ce troisième but. Il y a le poteau de Dembélé, puis dans la foulée tu prends le 3-2, donc tu pouvais au moins arracher le match nul. Je dis pas que le FC Barcelone n'a pas été bon, mais c'est assez frustrant de voir cette équipe du Paris Saint-Germain qui n'arrive pas à gérer un peu plus cette rencontre, parce que je pense pas que ça soit un Barça immense en face. Ça dit toutes les limites aussi du PSG, mais voilà, je suis frustré du résultat pour les Parisiens.
Frustré, il n'est pas énervé, il est frustré. Voilà.
Oui, mais il répond pas à la question, il est hors sujet comme d'habitude. Oui. Tu auras des chiffres, tu as moins cadré, tu as moins couru et tu as moins gagné de duel. Bah, et après, tu es énervé de.
Bah non. Non, mais après, on parle tout le temps du Barça, qui n'est pas un grand Barça. Mais moi, j'ai vu une belle équipe.
Je trouve un bon Barça, moi aussi.
Parce qu'en fait, on est toujours
j'ai sur. Une équipe surtout.
Voilà.
Non, par rapport à Paris,
c'est mieux. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, à chaque fois, on dit que c'est pas un bon Barça, moi, je trouve.
Moi, je suis
pas d'accord avec ça.
C'est pas un Barça.
Non, mais c'est pas un Barça flamboyant qui le Barça qu'on connaît, qui a une possession, qui domine son adversaire, qui se crée énormément d'occasions. Mais c'est un Barça qui est.
Leur saison, peut-être pas pour eux, Antoine.
Oui, non, mais c'est un Barça qui est comme ça. Oui, aujourd'hui, ils ont très mal débuté, donc ils sont en retard sur. Oui, mais après tu peux avoir après un équilibre retrouvé. Et puis moi, je trouve que c'est un Barça qui est équilibré. Je trouve que c'est un Barça qui a un autre esprit. et qui voilà qui renverse le truc ce soir avec du talent quand même. Mm-hmm. C'est, à chaque fois j'entends dire que c'est pas un bon match.
Mais mes amis, depuis quelques minutes les débats ont commencé, ils sont énervés et on vous répond finalement que cette défaite elle est pas surprenante puisque c'est la conséquence c'est la conséquence de quelque chose qui se tramait déjà depuis un mois, deux mois depuis un certain temps. Non mais là est-ce que c'est un argument que vous validez, Étienne et puis Jérôme?
Moi, je rejoins l'analyse et je l'ai exprimé depuis des mois, depuis quasiment le début de la saison, que je ne comprends pas ce qui s'est mis en place pour le moment au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas une immense surprise de les voir faire un match haché avec des bons moments comme ils le font depuis le début de la saison et puis des grands trous d'air. Mais ce que je veux dire, c'est que quand je dis c'est pas un grand Barça, non. Moi, quand je vois l'autre côté de la Ligue des Champions avec le match qu'on a vu hier entre le Real Madrid et Manchester City, Barça-là, il n'est pas à ce niveau-là du tout. Et le Barça, dans l'histoire, a été beaucoup plus fort que celui-là. Donc ce Paris Saint-Germain-là, avec les défauts qu'il a et avec les qualités qu'il devrait avoir et qu'il devrait avoir sur un match comme celui-là, et par exemple Mbappé totalement absent, tu peux battre ce Barça-là
avec... Tu trouves que c'est un grand PSG?
Non,
cette saison,
j'ai jamais
ce
dit ça. Mais en tout cas, avec même les défauts qu'a le Paris Saint-Germain, je pense que tu peux battre ce Barça-là avec juste quelques armes offensives que tu n'as pas déployées ce soir.
Jérôme,
je te promets, Bert, il y aurait la question et sur une défaite logique, j'aurais dit oui. Et on aurait sûrement été ensemble.
Ouais.
Ça veut dire que moi,
non, mais là, on est
de par ma position, et en plus, je ne suis pas toujours clanique, tu sais très bien ce que j'en pense. Mais pour le coup, je pense qu'on peut aussi vivre l'énervement de différentes manières. Vous êtes sur une forme de. Ouais, non, ok.
Il y a une logique.
Mais moi, la logique, je la comprends. Mais je pense qu'on a le droit d'être énervé, frustré, fâché, de voir des joueurs cadres, pas au niveau, encore une fois, sur ton plus haut match de la saison. Mmh. Non?
C'est ça qui est énervé. Je comprends l'énervement, voilà. Mais après,
c'est ce qu'on a continué. Je vais pas dormir,
c'est tout. Non, mais en même temps,
oui, je suis fâché.
C'est ce qui
se dégage.
À quoi on s'attendait, quoi. Oui, tu vois, par rapport à ce qu'on voit sur la saison.
Ok, alors je suis énervé que rien ne change.
Sur Donnarumma, on ne peut pas dire qu'on s'y attendait, par exemple.
Tu sais très bien, par exemple, qu'une saison. C'est pas en claquant des doigts que d'un coup sur un match tu vas d'un coup être tous à 100%, faire un match plein pendant 90 minutes. Ouais, mais ça, à chaque fois, moi je le répète chaque saison avec le PSG. Ils n'auront pas compris qu'en championnat il faudra être.
Le poste de Donnarumma, il est exceptionnel depuis quasiment début de la saison.
C'est ce qu'on dit aussi.
S'il ne se trouve pas sur ce match-là, bah, tu peux juste gagner le match d'une courte tête.
Je suis d'accord avec toi, mais c'est ce qu'on dit sur le PSG. C'est-à-dire qu'en fait, le PSG, chaque match. On dit qu'en gros, ils ont fait un bon match, mais à chaque fois, le meilleur joueur, c'est Donnarumma. Donc, le jour où il est un peu moins bien.
L'analyse initiale, elle n'est pas bonne.
S'il fait une erreur ou deux, mais tu perds.
Il a été moins sollicité que sur certains matchs de championnat.
Ouais. Mmh. Mais ça peut lui arriver de faire une erreur.
L'avis majoritaire, globalement, c'est pas ni toi, ni vous. C'est globalement le PSG, tout est aligné, c'est-à-dire que les matchs sont maîtrisés, c'est le pressing. Luis Enrique a pris la mesure, il a apporté du calme. Hier, il fait diversion conférence de presse. Mbappé est moins important qu'à une époque, il réussit à le manager. Je trouve qu'on fait un roman de la saison du PSG qui correspond pas au match.
Pas du tout, je suis là.
C'est pour ça que
c'est le climat.
Je dis c'est le climat. Je dis pas que c'est ton avis.
Le climat
du club est positif. Très positif.
Qu'est-ce qu'on entend? Voix royale.
Exactement.
C'est un truc qu'on entend et qui m'insupporte depuis le tirage au sort. C'est que déjà, je vois tout le monde du PSG, je vois beaucoup de matchs du Barça. Et je les voyais déjà avec 5 joueurs en moins que ce soir. Je me disais, waouh, l'image que les gens ont du Barça, mais ils ne voient pas tous les matchs.
Mais Jérôme, c'est par rapport au tableau.
Ah, ben t'as un bon tableau. Quoi, tu veux jouer avec
par rapport au tableau. Moi, j'ai pas dit que c'était un bon tableau. J'ai jamais dit ça. J'ai dit par rapport à l'autre tableau.
Non, mais
tableau.
C'est le meilleur tableau.
Tu regardes le Barça et tu regardes City et tu regardes
le Real, Arsenal, le Bayern.
Mais sauf que je pense qu'en plus, après ça, si jamais après ça, je pense que l'Atlético, c'est peut-être la pire équipe en Europe pour toi.
Oui, mais.
Quand on me parle de voix royale.
Oui.
C'est pour ça que je dis ça.
Vous voulez revenir sur quelque chose? T'as pas le droit de dire ça. Étienne, t'as pas le droit de dire ça. C'est ce qu'a susurré Bernard.
Je vous dis, ah là, c'est pas de bol, il a été monstrueux. Et puis là, paf, sur un match clé,
il se plante.
Enfin, j'ai l'impression que c'est pas la première fois que ça lui arrive au Paris Saint-Germain. Si on a bonne mémoire, il s'est déjà planté.
On en parlait pendant le match.
Après Champions League, ça
l'a dit. T'as la Benzema. ouais. Et t'as le Bayern l'année dernière.
On est d'accord ou pas? Donc de dire tu es énervé parce que Donnarumma est super bon et sort là il se déchire, ben moi ça m'énerve pas.
Oui, parce que dans toi, moment, toi, attends, j'ai déjà le dribble. Toi, Bernard, tu t'attendais à ce que Donnarumma se...
Il a jamais été à ce niveau-là. Moi, si tu me demandes mon avis, l'assurance historique de Donnarumma à ce niveau-là, ben je te dis que non. Parce qu'il nous a déjà prouvé le contraire.
Mais Bernard, il a jamais été aussi bon.
Je l'ai déjà vu, le dribble de...
Regarde-moi, regarde-moi.
Oui.
Là. Il a jamais été aussi bon au championnat depuis le PSG.
Non, oui ou non, okay. Non contrat ou pas contrat?
D'accord.
Oui ou non? Non mais moi je
réponds pas. Là t'affrontes
mauvaise foi football club.
Là on parle de Ligue des Champions. Avec tout le respect que j'ai pour les Auvergnats, on parle pas de Clermont-Ferrand. Est-ce que moi, mon étalon c'est Navas? Voilà. Mon étalon c'est Navas. Et Navas à ce niveau-là en Ligue des Champions, il n'a pas fait les boulettes que Donnarumma a fait. Donc je ne suis pas énervé de voir que Donnarumma il a raté son match.
Donc la saison de Donnarumma en Ligue 1, vous dites ouais c'est bien machin, mais le test ça sera en Ligue des Champions. Voilà, il est bien, mais c'est
depuis quand le juge de paix? Ah bah non mais alors.
Non mais c'est
le juge de paix, c'est donc des matchs contre Clermont.
Tu dis qu'il a jamais été aussi fort. En fait, tu peux pas juger uniquement les joueurs sur la Ligue des Champions.
Non, on est d'accord. Mais ce que je veux dire c'est que moi je suis pas énervé de la prestation de Donnarumma. Ce soir, tu te dis, c'est trop
bizarre.
Il rate le match de son match de l'année alors qu'il a été très très bon. Oui, il a été très bon. Oui, il a raté son match de l'année, mais non, ça lui est déjà arrivé.
Il y en a encore un match de l'année. Il y a un retour.
Oui, il y a un retour. Mais moi, j'attribue même pas la défaite du PSG ce soir à Donnarumma. Je lui attribue pas la défaite. C'est-à-dire que Étienne nous fait un peu. Il y a des erreurs de Donnarumma, donc le PSG a perdu. Moi, je pense que même s'il fait passer le but, là,
non, raccourci qui n'est pas suivi. Il n'est pas ce que je dis. Moi, je dis qu'avec les erreurs. Avec les erreurs et avec les faiblesses du Paris Saint-Germain, avec un Donnarumma tel qu'il est depuis le début de la saison, tu peux même.
Parce que même avec un bon Donnarumma, tu peux perdre. Ok, mais, non, mais attends, je ne chambrerai pas.
Bertrand, je ne vais pas te défendre. La Yann est d'une mauvaise foi absolue, mais pour le coup, ce n'est pas ce qu'il a dit.
Oui, mais tant mieux. Mais moi, si j'ai mal compris, parce qu'il était à côté. Peut-être que d'autres auraient pu mal comprendre.
On savait que ça allait agacer Germain Lozo, qui allait un peu s'arracher.
Mes amis, à un moment, factuellement, dans le match, donc, Paris ne voit pas beaucoup le jour. On était très inquiets, très, très inquiets à la pause. Finalement, le match, deuxième bascule, en deux minutes, Paris reprend les commandes. Comment se fait-il qu'après, Paris ait laissé, on va dire, échapper ce match-là, voilà.
C'est le quart d'heure parisien.
Oui, non, je... Comment vous avez vu ? Il y a eu un coaching de la part de Xavi, il y a eu deux coups de coaching qui ont été vraiment effectifs, avec l'entrée de Pedri pour stabiliser le milieu de terrain. Mais là, il y a... Voilà. Est-ce que vous avez des explications à donner à nos téléspectateurs ?
Parce que les cadres ne sont pas là. C'est-à-dire, si Mbappé, dire, au moment où c'est même pas lui qui remet l'équipe à l'endroit et que le Paris Saint-Germain prend l'avantage... Péry prend un peu le jeu à son compte. Si Dembélé, malheureusement, disparaît pas aussi en deuxième mi-temps...
Voilà, Ultra apparu à un moment.
Tu vas te procurer des occasions. Tu dois marquer d'autres buts et tu dois éventuellement peut-être en prendre un, mais gagner ce match d'une courte tête. Donc voilà. Mais Paris fait ça. Et là, pour le coup, je rejoins mes adversaires. C'est-à-dire que je suis d'accord avec eux. Paris nous a habitués à ça depuis le début de la saison.
Il se dégage une force collective à 2-1 contre eux. Il se dégage une force collective du Barça. Que tu as eu côté parisien une fois, c'est sur le deuxième but. Mmh. Où là, vraiment, t'as un truc qui s'est mis en place, c'était magnifique. Mais Paris ne tient essentiellement que sur des exploits individuels, comme le but de Dembélé, par exemple. Mmh. Et à 2-1, t'es rattrapé par ça. Pardon, Giovanni.
Non, mais il n'y a pas de pardon. On vous laisse finir. Qu'est-ce qu'il y a, mon Jojo? Il y avait quelque chose à ajouter?
Non, celle de Sagrat.
Non, mais... par rapport à ce qu'on a vu du Paris Saint-Germain qui a fait défaut ce soir, on en a souvent parlé lors du mercato estival. Moi, je trouve que ce soir, on a encore vu les carences au milieu de terrain. Quand on sort Vitinha, je trouve que c'est beaucoup trop léger. Je vais pas m'acharner sur lui, mais Fabian Ruiz ce soir encore, il a pas été bon. Le choix de Luis Enrique avec Kang In-Lee, le positionnement de Dembélé, je trouve qu'ils se sont perdus. Et que ce soit en première période, quand ils ont laissé le jeu à Frankie de Jong, il leur a fait énormément de mal. En seconde période, l'entrée de Pedri et on a aussi beaucoup plus vu Gundogan. Ils sombrent en fait sur ces séquences-là. Moi, je trouve qu'ils sont trop légers défensivement. Beraldo, que j'avais bien aimé à la Real Sociedad ce soir, il a été catastrophique. Donc voilà, c'est les limites aussi de cet effectif parisien qui est à mon sens trop juste sur des postes clés. Donc quand Xavi fait son coaching, il y a un moment de flottement où les Parisiens sont un peu plus loin. Ils laissent un peu plus jouer les Barcelonais. Il y a la passe magnifique de Pedri parce qu'ils n'ont pas de marge et qu'ils se font trimballer au milieu dès que Barcelone a monté le, le curseur.
Mais moi je trouve qu'au milieu, ils ont été justement en début de premier quart d'heure, là, je trouve qu'au milieu, le PSG a mangé le Barça.
Oui.
Et après, il y a une réaction de Xavi. Donc ça, le changement avec Pedri peut-être a amené un peu plus de stabilité au Barça. Mais il y a eu pendant ce quart d'heure, 20 minutes, on se disait, il va plus y avoir 3-1 que le Barça va revenir.
Comment pour un pari ?
Et à un moment donné, il y a aussi ce 2-2 qui leur fait très mal. Parce que le but, on le voit pas trop arriver quand même. Le but du 2-2. Non. Tu vois pas un Barça qui pousse
l'occasion sur la première juste après qui déchire sa tête.
Ouais, la tête, oui. Mais
vous savez comment il arrive l'action, le deuxième ?
Oui, sur une relance de Donnarumma.
Oui, en fait, il y a un pressing et oui, c'est plus une relance.
C'est pas un gros pressing.
Mais
ça tombe sur un Barcelonais et ensuite cette passe qui est magnifique et l'enchaînement de Rafinha qui est magnifique.
Oui, mais avant c'est juste Donnarumma est cadré et c'est pas une relance, c'est un dégagement.
Je pense pas qu'il dégage. Je pense qu'il cherche quelqu'un, mais il sort.
Il trouve un Barcelonais.
Il fait une passe de 30 mètres. Je pense que s'il dégage, elle va à 60 mètres.
On dirait une passe longue.
Il cherche Asensio.
Moi, je pense que ce 2-2 leur fait très, très mal, quoi. Ouais. Mentalement. Parce qu'ils se disaient, on maîtrise un petit peu, on est un peu mieux, on pense qu'on va aller mettre le troisième. Et donc, mentalement, je pense qu'ils prennent un coup. Et souvent, quand ils prennent un coup, il n'y a pas, comme on l'a dit Étienne, il n'y a pas un leader qui arrive et qui dit on repart de l'avant.
On va donner la parole à notre rédacteur en chef. C'est Marquinhos. Parce que Marquinhos, vous nous dites souvent.
Il a analysé comme il faut ?
Non, mais je ne sais pas. Parce que Marquinhos, votre lecture, c'est Marquinhos, il analyse vachement bien. Mais merde, ce qu'on attend, c'est le capitaine qui corrige. Ouais. Marquinhos, qu'est-ce qu'il nous a dit sur cette défaite ?
C'est une équipe de très haut niveau, on ne s'attendait pas à un match facile. Ça a été un peu trop ouvert. On a essayé de les presser très haut. Ils se sont entraînés à casser les lignes avec Lewandowski. C'est comme ça qu'ils nous ont mis en difficulté.
Ok, le rôle de Lewandowski, on va dire, à une sorte d'avant-centre un peu fantôme qui vient dézonner. Ça, ce rôle-là, est-ce que vous l'avez noté, et notamment en deuxième période, ou pas ? Ou ça, c'est vraiment le fait de la première période, Lewandowski, là, le gars qui aspire Beraldo, et donc toute cette défense.
Ouais, les deux, même Hernandez.
Ouais.
Moi, je trouve que quand tu vas, ça dépend où tu es, mais quand tu es très bas, comme notamment quand il prend le ballon sur le premier but, je pense que là, les milieux, ils doivent parler avec les milieux pour intervenir. Parce que sinon, ça te fait dézoner très très bas. À moins que tu sois vraiment toute l'équipe à presser très haut. Mais là, c'était pas trop le cas. Parce que quand tu vois Hernandez qui y va, quand il fait son crochet, son contrôle orienté, tu vois que Beraldo est très loin de lui. Mmh. Si à la limite, il est prêt, bon, tout le monde est là. Et donc, je pense qu'il aurait dû avoir un échange avec le milieu de terrain. Et là, quand je vois Marquinhos qui nous analyse encore le truc, mais ils n'ont pas réglé le problème. Quoi,
oui, mais pardon,
tu
mais...
Si tu vois qu'il y a ce problème-là, tu dois le régler.
Comment ? C'est ce que je voulais dire à la mi-temps. C'est
mais vous l'avez mal dit, donc vous avez une deuxième chance.
Il n'y a pas que les deux centraux.
Oui, il y a Vitinha. Évidemment, vous avez ciblé
le. Quand c'est bas comme ça, tu vois. Moi, je trouve que le milieu. Ils doivent parler avec les milieux. Ce n'est pas les milieux qui doivent intervenir.
Oui, mais là, donc, il y a un truc de communication. Et là, bon, on va avoir un débat sur Luis Enrique. Mais quand Luis Enrique nous propose, on va dire, un changement permanent pour la fluidité, pour la communication, pour les trucs comme ça.
C'est des joueurs intelligents, les mecs qui jouent plus haut niveau, ils jouent dans les meilleures sélections du monde à un moment donné. Quand tu vois, comme il a dit Marquinhos à la fin, quand tu vois qu'il y a un truc qui te gêne, ça doit être réglé dans le match. C'est pas possible que ça te perturbe pendant 95 minutes, quoi. Oui. Tu vois, je sais pas, il parle pas avec les mecs pour dire, s'il décroche, il y en a un autre qui est Vitinha, tu restes un peu plus dans cette zone, etc., etc. Parce que c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça a vraiment perturbé cette équipe, le fait que les mecs qui décrochent.
Disons qu'en mettant deux joueurs qui se connaissent pas, puisque un vient d'arriver cet hiver en changeant de pays à 20 ans, avec un gaucher, axe droit, déjà un arrière droit qui en est pas un, qui est un défenseur axial, mais qui l'a fait il y a 3 ans. Bon, ça aide pas non plus. Je pense que ça aide pas les joueurs non plus. Ils sont pas mis dans les meilleures conditions. C'est aussi le rôle d'un entraîneur. Je trouve que de ce point de vue-là, la mission est pas remplie. On sait qu'elle avait été corrigée. Et je pense que ça a été mieux fait en deuxième période en mettant
Hernandez à droite.
Il y a eu juste un coaching. Ouais, Marco là qui est rentré. Mais alors, il y a eu Lucas Hernandez qui est passé arrière droit, Marquinhos qui est revenu dans l'axe. Et puis après là. On a cherché un peu sur cette attaque-là. On a vu un moment Dembélé avant-centre, on a vu Mbappé à gauche, on a vu Barcola, puis après on a vu quand même, Mbappé revenir au centre avec Barcola à droite.
Enfin, non mais là le changement,
Dembélé en soutien des deux autres.
Hernandez,
ça c'est incompréhensible pour moi.
Pourquoi ?
Je comprends pas pourquoi à la mi-temps d'un coup. Quelle est l'idée en fait ?
Mais ça pose un vrai problème ce qu'il dit.
Je sais pas. Tu commences le match comme ça et d'un coup à la mi-temps tu te dis je vais mettre Hernandez en
droit. Par rapport, tu dis.
Fasse attention parce qu'après il va sortir du terrain.
Est-ce qu'on sous-entendrait pas que ces joueurs-là qui pourraient prendre les clés du match ou en tout cas les clés tactiques du match par moment quand ça va pas, pourquoi ils le font pas ? Est-ce qu'ils ont peur ? Est-ce qu'il y a une crainte que Luis Enrique leur ait donné un cadre et que eux pendant le match même si ça ne fonctionne pas, ouais, ils n'osent plus en sortir. Non, je pose la question. Parce qu'effectivement, tu le dis, c'est que des joueurs qui sont à 50 sélections dans leur pays, dans tous les plus grands clubs du monde.
Alors, mais alors, si t'as un coach...
Marquinhos te met le doigt sur ce qu'a pas été. Il n'a pas changé une seconde pendant le match. Donc, je veux juste comprendre pourquoi. Ou alors, ils ont peur de sortir du cadre. Ou alors ils n'osent pas le faire.
T'as un coach qui est un tacticien hors pair, ben Giroud trouve tout, qui a toujours des idées sur tout. Et pourquoi lui, il n'intervient pas quand il voit ce qui se passe, quand il voit ce que fait Lewandowski, quand il voit le bouillon qui est en train de prendre son axe central.
Il est intervenu. Après,
à la mi-temps, il a changé.
À la mi-temps, il a changé. Alors après, on peut considérer que le changement n'est pas le bon et inadapté. Mais pour le coup, on ne peut pas dire qu'il a été immobile, puisqu'il y a quasiment 4 joueurs de place. Il y a 4 joueurs qui changent de place. Après, moi, je ne comprends pas comment, dans un match de Ligue des Champions, ou dans un club où tout va mieux, Lucas Hernandez, dans quelle vie il peut être, à un moment donné, jouer arrière droit. Ça, je ne comprends pas. Alors après, lui, il n'est pas comptable de tout le mercato, Luis Enrique, parce que j'entends. Mais je lui dis, un club qui va bien, tu n'as pas Lucas Hernandez arrière droit contre le Barça, quart de finale, alors que tu as un suspendu.
Non, surtout qu'il a essayé souvent Zaire Emery dans ce poste-là, tu peux te dire, bon, alors, à la mi-temps, je le mets là-bas. Quoi. Ouais. Et puis tu repars dans un truc classique.
Je ne sais pas si vous avez vu, lu et entendu. Non, regardez l'interview de Luis Enrique hier sur le site, sur PSG Télé. Pour lui, un joueur qui joue dans son équipe, et notamment au Paris Saint-Germain, doit pouvoir évoluer, on va dire, à 2 voire 3 positions. Il a dit, fuera.
Ça veut dire que quand tu es Lucas Hernandez, tu peux jouer, comme vient de le dire Bertrand, arrière-droit dans un quart de finale de Ligue des Champions contre quand même une équipe, même si ce n'est pas le plus grand des Barça, c'est quand même le Barça. Non. Et tu dois quand même pouvoir avoir d'autres solutions. Et puis si tu as fait un mauvais choix avec Beraldo, qui a pris un bouillon terrible toute la première mi-temps, qui mentalement tu vois bien qu'il n'y est pas du tout, qu'il est perdu.
Il était nul.
Pourquoi est-ce que tu le sors pas complètement?
Là où tu fais du coaching, c'est tu sors Beraldo qui est ton maillon faible, tu reconstitues ta défense centrale avec Hernandez et Marquinhos, et à droite tu fais rentrer Zaïre Emery.
Ou sinon tu mets Danilo.
Vous regardez l'équipe du soir, mes amis, vous avez bien raison. Nos téléspectateurs de Canal viennent de nous rejoindre. Salut les amis de Canal. Ce soir, donc vous n'êtes pas surpris, le Paris Saint-Germain, donc s'est incliné en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Une défaite à domicile, 3-2 contre le Barça. On va se faire un petit plaisir, Virginie. Enfin, on va être un peu sadique. On va revoir ces 5 buts avec vous, ma chère Virginie.
Allez, avec plaisir. Paris est d'abord logiquement sanctionné après un début de match raté. Lewandowski pour Yamal à la 37e. Centre parfait de l'extérieur du gauche. C'est mal dévié par Donnarumma. Attends. Est-ce que les images vont partir?
Si, mais voilà, les voilà. Regardez, c'est à vous. Voilà, c'est le premier but. C'est Rafinha, deuxième poteau, comme à la fin.
Égalisation grâce à Dembélé à la 48e. Le crochet qui va bien, le missile du gauche pour enflammer le Parc des Princes. Le collectif parisien enchaîne avec Kangin Lee pour Ruiz qui donne à Vitinha pour son 8e but de la saison. Paris prend l'avantage, mais le Barça revient sur une mauvaise relance de Donnarumma et une passe parfaite sur toute Pedri pour Rafinha, le doublé de l'attaquant brésilien. Il repasse même devant les Blaugrana sur un corner tiré par Gundogan, repris de la tête par Christensen.
3-2. Le but le plus rageant, là, vous, mes deux énervés, c'est lequel? 1, 2 ou 3?
Le troisième. Par rapport à Donnarumma?
Ouais, vous, c'est le troisième, vous. C'est Christensen qui est complètement lâché au marquage.
Non, pas lâché au marquage, mais il a 2 mètres de la cage. Quoi. Moi, j'ai un gardien, même s'il fait. Là, en l'occurrence, il fait 1m95.
16.
Ou 16. Non, alors après, je veux bien l'esprit italien qui sorte jamais les gardiens. Ça, c'est une vérité. Mais là, il ne faut pas déconner, quoi. Le mec, il a 3 mètres, quoi. Qui c'est qui va y aller? Tu vas y aller quand?
Non, mais de toute façon, s'il fait même un. L'autre ne peut pas marquer.
Non, mais même, je pensais qu'au départ, le mec était vraiment un peu premier poteau.
Tout de suite,
quand tu revois au ralenti, il est plein axe, quoi.
Avec Bertrand.
Et il est dans la. Il est où, là? Christensen, il est dans la boîte, là.
Il a 3 mètres de la cage. Il est au milieu de la boîte.
Ouais, il est dans la boîte, là.
Il a 3 mètres de Donnarumma.
Avec Bertrand, on a vu tout de suite les premiers corners tirés comme ça par le Barça, où tu sens qu'il vise Donnarumma. C'est-à-dire que c'est complètement prévu et étudié. Tu sais que tu vas le mettre au défi. Il est sorti une fois sur 5. Et une fois, il a fait avoir but, rappelez-vous, il se déchire sur Lewandowski, même s'il a touché un petit peu.
Ouais.
Après le
bon, c'est Nuno Mendes qui sauve.
Mendes sauve sur la ligne. Une autre fois, il est court, et puis après, il y a un but. Ça veut dire que quand même, sur 5 corners, il se trouve 3 fois.
Donc, le premier, moi, je ne suis pas d'accord avec toi, parce qu'il a...
Il a freine.
Il se trouve un peu, mais il a freine pour pas...
Excusez-moi, sur le sauvetage de Mendes, il est vachement mal positionné.
Ouais.
Au moment de son intervention, il est comme ça. Il est pas du tout en situation d'accueil.
C'est clairement une faiblesse qui a identifié le Barça et que la consigne du tireur, c'était tu mets feuille morte, même pas tiré fort, vous avez vu? Ils n'ont pas tiré fort. Tu mets feuille morte sur Donnarumma. Et ben, ça n'a pas loupé.
Alors, vous nous avez fait un cours sur les gardiens italiens, les classiques.
C'est pas un cours de moi, c'est historique. Hein.
Oui, c'est un petit cours.
Bon,
c'est
pas magistral,
c'est
là, mais bon.
Oui, c'est voilà.
C'est une mineure classe. Là, c'est une master class, c'est une mineure classe.
Non, non, mais.
Minor class.
Là, c'est un gardien italien ou là, non, là, il ne prend pas ses responsabilités.
Je vois à 100%, c'est qu'il y a un minimum dans le cahier des charges. Je veux bien que tu aies une culture.
Ben oui.
Mais il y a un minimum. C'est-à-dire que quand tu fais les 96. Dans la période de ta vie où tu es en plus là sportivement, où il marche sur l'eau, dire, tu dois imposer un truc, surtout un soir où tu n'es pas bien. Il n'est pas bien depuis le premier dégagement. Ça ne va pas depuis la cinquième minute, il n'est pas bien lui. Non mais c'est vrai, même la sortie en face à face au début du match, il la prend sous le mollet, il est très heureux sur le
coup.
Mais, très heureux. Mais bon bref, un soir où ça ne va pas bien, quand tu as ce gabarit-là, cette stature-là, tu es à 2-2 au Parc des Princes, un corner à 3 mètres de ton but.
Vas-y. Et même, tu fracasses. Comme tu l'as dit tout à l'heure, tu ne penses pas que le premier corner où il se trouve un peu, même s'il a dévié, il a freine.
Il lui met le rein.
Mais je pense qu'il n'y va plus après. Il
veut plus y aller. C'est une erreur.
Ouais, mais alors le problème, c'est
à ce niveau-là, c'est une grosse erreur.
Le problème, c'est que là, c'est-à-dire qu'il y a psychologiquement, il y a des carences qui font que pour un joueur de ce niveau-là, qui est censé être à cette altitude, d'être un des meilleurs au monde, si sur une bévue qui ne touche pas de but derrière, tu joues comme ça, c'est quand même
en fait. Tu joues pas comme ça, mais tu t'hésites. Déjà qu'il ne sort pas beaucoup, comme il dit Jérôme, je suis d'accord avec lui.
Il hésite encore plus à y aller.
Sur le corner de Lewandowski, il sort beaucoup plus loin que là où il prend le but.
Oui, il va la chercher.
C'est pour ça qu'il est important. Bah oui.
On fait un petit spécifique sur Donnarumma, mais sur les deux premiers buts encaissés. Là, il y a quelque chose qui se trame et qu'on peut reprocher aux Parisiens. Cette équipe n'a pas d'assises. Le porteur de balle sur Pedri, elle n'a pas d'assises. Oui, elle a pas quelque chose, une proue, quelque chose qui la maintient, qui l'intient. On voit toujours des porteurs de balle qui ne sont jamais ni cadrés ni contestés. Et là, on en revient sur l'organisation de Luis Enrique et peut-être également le niveau même des joueurs, non ?
Bon, le Barça a été pris aussi, ce soir.
Oui, aussi. Oui, non, mais c'est sur les buts, hein. Moi, c'est sur les buts, niveau, les situations.
Le niveau de ce milieu, c'est vrai que si tu regardes au démarrage, tu te dis donc le Paris Saint-Germain, avec les moyens financiers qu'il a, il démarre un quart de finale de Ligue des Champions avec ce milieu-là, avec ces joueurs-là, qui ne sont même pas des joueurs qui sont titulaires en sélection. C'est moyen, c'est moyen plus pour Vitinha qui est vraiment un beau joueur. Mais pour les deux autres, franchement, à ce niveau-là, tu peux avoir fait ça quand
Ruiz il joue en sélection nationale.
Hein oui, Ruiz joue.
Sélection d'Espagne.
Il est indiscutable. C'est une vraie question. Là,
non, mais je sais pas. Moi, je taperai pas sur eux ce soir.
Sur le milieu de terrain ?
Bah non.
Non.
Moi, j'ai trouvé que pendant les quarts d'heure où ça a été bien le PSG, c'est le milieu de terrain qui a été à la hauteur.
Mais ce que je comprends pas, Joanne.
Et après, ils n'ont pas réussi à tenir la cadence. Mais je pense que ça vient de ce que je dis depuis le début de la saison. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en championnat à écraser pendant 80 et à mettre ce rouleau compresseur.
Tu l'étais, toi, le plus de l'équipe, c'est pas précisément le milieu de terrain. Et moi, je suis d'accord avec toi sur les deux années.
C'était plus
sur
le deux cerveau que le poumon,
Le problème
c'est que les poumons, là, n'avaient pas toujours.
Sur trois quarts d'heure par mi-temps, et t'en fais que deux.
C'est
deux
sur six. C'est le cerveau poumon.
Non, mais après, c'est un tout, mais je trouve que le milieu a été bon pendant la bonne période parisienne. Oui. Ils n'ont pas réussi à tenir ce rythme.
C'est ça. Ah ben, 24 minutes.
Xavi Hernandez, le coach du Barça. J'espère que la trad marche.
Lui, il a marqué, il sort du Barça.
Ah oui, lui, il a marqué. On y va.
Aquí davant, sisplau, molt torn a Catalunya Ràdio.
Bona nit, Xavi. Bona nit. Enhorabona.
Félicitations pour la victoire. Vous avez bien joué aujourd'hui. Et tout était parfait. Peut-être que votre équipe a joué très bien dans tous les postes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire entre tout ça de l'attaque de l'équipe d'aujourd'hui. L'équipe a pouvait s'exprimer bien aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de la performance de Lewandowski, par exemple? On a vu en équipe différente. Est-ce que vous pensez que vous avez joué comme vous voulez? Oui, je pense qu'on a bien joué aujourd'hui. Je pense que notre défense a compris ce qu'il fallait faire. Et on a bien marqué les joueurs de Paris, de PSG, ils étaient aussi très bien, Dembélé, Marquinhos, ils ont essayé d'attaquer. Il y avait donc beaucoup de duels individuels Mais bon, notre joueur, ils ont compris très bien ce qu'il fallait faire et ils ont contrôlé bien. Et Lamine et Rafinha, ils étaient les meilleurs joueurs d'aujourd'hui. Mais il faut parler de la défense aussi. C'est pas un travail seulement offensif, mais aussi un travail défensif. On sait que le PSG joue très bien individuellement, mais bon, on a fait un bel travail offensivement et défensivement et on est très content avec l'équipe et de sa façon de rivaliser. Félicitations pour la victoire, coach. Est-ce que vous sentez que après tout ce qu'on a dit sur le favori, vous avez dit que vous n'étiez pas le favori, mais est-ce que vous pensez maintenant que ça a changé? Comment est-ce que vous vous sentez pour la demi-finale? Oui, c'est vrai, je pensais que le favori était le PSG. Ils ont fait un beau travail aujourd'hui, mais nous avons fait un bon travail défensivement. Nous avons fait un bon travail parce qu'on a fait une bonne pression et la pression était bonne. Et en général, je suis très contente avec ce qu'ils ont fait. Je pense que tous les supporters de Barcelone peuvent être heureux parce qu'on a attendu une victoire contre une des meilleures équipes du monde. Alors, on a compris tout et maintenant, il faut penser au match retour mais qui va être très difficile à Barcelone.
Voilà, avant le match, Luis Enrique avait dit le Barça, c'est moi. Ce soir, il y a eu un peu de coaching, hein, il y a eu un jeu de coaching. Et là, ce soir, c'est vraiment Xavi qui sort grand vainqueur.
Non, mais c'est l'élève qui a dépassé le maître. Mmh. Parce que je vous écoute parler, ça fait quand même peur.
Et on fait pas fausse route.
Non, parce que Jérôme, il nous explique que le Barça avait vu une faille tactique ou technique avec sur les corners.
Non, raison.
Que on a placé Lewandowski dans un rôle un peu hybride de très quartiste, comme disent les Italiens. 9,5 pour aspirer les centraux. Qu'après un quart d'heure de seconde période, quand ils ont perdu la possession, il a changé quand même pratiquement tout son milieu de terrain. Il a inversé de côté Rafinha. Donc en fait, il a joué tous ses coups tactiques justes, Xavi, pendant que nous, on est en train de se dire « Ouais, bon, à la mi-temps, il a sorti un joueur, il a fait rentrer Barcola, il a changé toute sa défense. » Ben oui, mais le football, c'est mon tableau noir, et au final, c'est Xavi qui a battu Luis Enrique.
Si Xavi Galtier avait fait ça,
il se serait fait démonter. Mais comme c'est Luis Enrique, on n'a rien le droit de dire.
Oui,
car même quand il se trompe, Luis Enrique, on n'a pas le droit de dire. Je suis désolé, je maintiens ce que j'ai dit, ne vous en déplaise à l'anti-France, je dis Luis Enrique, ce soir, il a été dépassé par Xavi. L'élève a donné le son.
C'est des couillonnades, ça. C'est Xavi, il se fait démonter par l'Europe entière et par les fans de ce club dont il a fait la légende parce qu'il était pas bon. Et donc là, lui, il est devenu un génie ce soir parce que
ce soir. Non,
mais c'est pas vrai. Tu exagères tout le temps.
Mais non, j'exagère pas. Je pense
que c'est ça. Il a posé.
Oui, mais je vais y revenir. Mes origines, mais. Il a rien inventé, Xavi. Il a fait des choses classiques. Luis Enrique passe sa vie à changer tout le temps. Mais c'est ce qui faisait précisément, on disait, la chance de Paris, c'est aussi Luis Enrique parce que il invente des choses tout le temps et il est meilleur que les autres. Mmh. Il n'est pas devenu mauvais ce soir, hein, Luis Enrique. Je pense aussi que d'une manière générale, c'est valable pour Galtier, pour les autres et pour Deschamps ou qui vous voulez, que souvent on surestime aussi un peu quand même l'impact des entraîneurs, je parle sur la durée, et que est-ce qu'on est certain, absolument certain, que le PSG a une équipe supérieure à celle de Barcelone? J'en suis pas si sûr. Encore plus certain que le PSG est meilleur que le Barça avec ce Mbappé qui est un fantôme.
Après, l'entraîneur, il essaie. Moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que pour moi, il y a des trucs qu'il avait préparés. C'est là où on commençait à dire putain, il fait des changements, c'est bizarre. Tu vois, par exemple, Zaïre Emery à droite, ça tenait à peu près la route. Moi, je trouvais que c'était plutôt intéressant. Et c'est ce soir, dans ce match-là.
Il le met
pas. Tu dois le mettre parce que tu t'es appuyé sur ses expériences un petit peu pour voir si à droite il manque du monde. Oui. Et là tu ne le fais pas. Après j'ai perdu.
Après t'as un problème
mais
aussi.
Non mais voilà ce côté
t'as un problème aussi quand même
surprend en fait.
D'effectif parce que quand tu regardes finalement ce 11 de départ, je veux dire il y a des trous quand en plus tu les déplaces et tu fais pas les mises en place que tu aurais dû faire avant, etc. Mais si tu regardes la saison du Paris Saint-Germain jusqu'à maintenant, ils ont perdu beaucoup de matchs de Ligue des Champions. Ils se sont qualifiés de justesse pour les huitièmes de finale.
C'est leur troisième défaite en Ligue des Champions.
Ils ont perdu contre Milan, ils ont perdu
Newcastle, Milan et ce soir.
Voilà,
ils ont du mal à battre une équipe de haut niveau. C'est aussi la leçon de la saison du Paris Saint-Germain. Autant il y a des saisons précédentes où avec des gros effectifs, ils se trouaient et tu comprenais pas, tu avais l'impression que psychologiquement, ils ne pouvaient pas y arriver. Autant là, il y a un vrai problème de niveau.
Je vais juste... Après, tu peux parler... On n'est pas énervé.
Non, mais après, ça peut être énervant.
Qu'ils ne fassent pas tous les efforts pour augmenter leur niveau.
Après, tu peux taper sur Luis Enrique par rapport à certains choix. Mais après, tu ne peux pas aussi empêcher de dire que Luis Enrique met quand même ses joueurs avec lesquels il espère aller plus loin. Et qui sont fantomatiques ce soir aussi.
Donc on ne va pas à chaque fois.
Le mec, il met quand même son équipe. Moi, ce soir, quand je vois l'attaque du Barça, les mecs, ils font un travail à la fois défensif, offensif, qui sont à la hauteur de ce qu'on attend d'eux, quoi.
Ils sont liés à l'équipe.
Ouais. Et puis, mais même par rapport à leur talent, ils t'amènent des choses qui te permettent d'espérer et de pouvoir dire que Xavi a fait des bons choix ce soir. Mais Luis Enrique remet son équipe avec ses atouts, et ses atouts sont transparents.
Sur le talent pur offensif.
Donc, après, tu peux taper sur Enrique sur certains choix.
Mais certains choix qui sont lourds de conséquences quand même. C'est pas anecdotique. Les choix qui sont faits. Bah, le choix de Zaïre Emery, il est. Il n'est pas neutre. C'est très, très
important. Ça ne les a pas empêchés de faire deux bons premiers quarts d'heure. C'est trop peu. C'est la continuité de la saison.
Docteur Love et le nourrisson. La majorité ce soir qui regarde l'équipe du soir, qui s'est connectée sur le site L'équipe, l'équipe connecte, n'est pas énervée. Voilà. Il y a une forme de logique. Là, je ne sais pas, ça vient de commencer la Ligue des Champions. C'est pas déjà terminé. Dans quelques minutes, est-ce qu'on a assez parlé de Luis Enrique? Ben, je dirais non, puisqu'on va revenir sur le match de Luis Enrique. Est-ce que vous retenez plutôt sa compo de départ ou son coaching? On en parle tranquillement dans quelques minutes dans l'équipe du soir. A tout de suite. Ce soir, le Paris Saint-Germain a perdu la première manche au Parc des Princes. 3-2 contre le Barça. Vous avez vu ces images. On aura l'occasion, évidemment, de les revoir un petit peu plus tard dans cette émission. On a beaucoup parlé de Luis Enrique. Il fait débat ce soir. Son nom a été évoqué. On l'a mis dans la rivière. Vous retenez quoi ce soir, sa compo de départ ou son coaching? Puisque après son coaching, ça a été un peu mieux pour le Paris Saint-Germain. Habillage, faites entrer Luis Enrique, s'il vous plaît. Monsieur Moati.
Bon, la compo de départ.
Le départ.
Compo de départ.
Départ, départ. Monsieur Latour.
Même chose.
Départ. Contrat pour quoi, Bernard ?
Le départ.
Le départ ? Bon. On accompagne ou on se rebelle ?
Non, je sais pas. Oui. On va écouter le peuple.
Ouais.
Tu as une certaine crainte d'assumer ton opinion, là, mais n'aie pas peur de nous.
Non, mais il est en contre. C'est comme au tarot.
Non, je suis pas en contre. Je suis en... j'ai pas une réponse définitive parce que les deux premiers quarts d'heure, ils sont bons, tu vois, pour moi. Donc la compo au départ, elle n'est pas si mauvaise parce que tu rentres bien dans le match et tu mets en difficulté le Barça. Et les premiers quarts d'heure de la deuxième mi-temps avec le changement de tactique quoi, ou de joueur, de positionnement, tu es bien aussi. Donc, après, tu n'arrives pas à tenir sur les deux mi-temps.
J'ai pas un
avis tranché. En fait.
Si on peut-être juste dépasser ou prendre juste un biais un peu différent pour attaquer la compo de départ, est-ce que Luis Enrique, lui, imagine sa compo que les mecs vont être le morodant et vont attaquer. Et finalement, est-ce que l'histoire de ce match, c'est le discours de Luis Enrique, la manière dont il voudrait que son équipe joue? Ces joueurs sont pas convaincus, en fait. C'est une histoire entre...
Pas capable.
Ouais, ou pas capable, pas convaincu.
C'est pas la même chose, quand même.
Oui, non, mais mettez ce que vous voulez là-dedans. Mais, est-ce que c'est ça, en fait, le truc?
Est-ce que le meilleur Paris Saint-Germain qu'on avait avec Luis Enrique, il a pas été très souvent là, mais c'était pas simplement une équipe qui mettait énormément d'intensité, qui faisait un pressing incroyable et qui
C'est ce qu'ils font sur les deux premiers quarts d'heure, je trouve. Ils n'ont pas réussi à maintenir.
Est-ce que c'est des joueurs qui peuvent faire ça? Est-ce que Fabian Ruiz, c'est un joueur sur lequel tu peux compter sur un match entier pour mettre de l'intensité, pour faire du pressing tout terrain? Est-ce que Kangin Lee, c'est le cas aussi? Moi, je crois pas. Je pense qu'il avait un milieu, et ça s'est vu à certains moments de la saison, où on s'est dit, ça peut être cette équipe-là, le Paris Saint-Germain, une équipe qui fait un pressing, qui joue sur l'intensité, qui court énormément et qui a des flèches devant, donc qui avec en plus du talent, qui vont marquer des buts. Il n'a pas voulu de ça, j'ai l'impression, Luis Enrique. Il a voulu un autre Paris Saint-Germain, mais j'ai l'impression que ce Paris Saint-Germain-là, il n'existe pas.
Il n'a pas les joueurs pour jouer.
Ouais, c'est celui qu'il aimerait, qu'il envisage, qu'il aura peut-être l'an prochain, mais qui, là, ne répond pas à la qualité de son équipe.
Bon, son équipe sera prête l'an prochain, ça c'est sûr. Je pense qu'il va prendre la défaite pour lui, parce qu'à chaque fois qu'il y a défaite, c'est pour lui. Écoutez, Luis Enrique, c'est en direct, hein, c'est actuellement, bonsoir, là, match.
Bonjour.
Giovanni Castelli, la chaîne L'Équipe, comment vous ressortez après ce résultat? Est-ce qu'il y a de la frustration? Vous étiez parvenu à rentrer très fort en seconde période, mener 2-1 et finalement vous concédez la défaite à domicile. Quelle est votre réaction à chaud? Merci.
Oui, évidemment, c'est une défaite que nous n'aimons pas. Je pense que le match a eu de bons moments et de moments qui n'étaient très bons. Et lors de la première mi-temps, on était dominant. Mais après leur premier but, nous avons eu des doutes. On a affronté une équipe qui a joué très bien, qui a sécurement nous marqué. Après le mi-temps, nous avons changé quelque chose et on a fait une pression meilleure. Et on a changé le match, on a marqué. Mais après, ils ont joué très bien et ils ont marqué, repris. Et comme ça, ils ont repris l'avantage. Alors, on avait des moments bons, des moments difficiles et finalement, le résultat n'est pas bon pour nous.
Bonjour, Baptiste Bécard de l'AFP. Vous disiez avant le match qu'il faudrait contrôler les émotions. Est-ce qu'à votre avis, c'est là que ça a pêché ce soir? Vous avez bien entamé le match, vous avez même repris l'avantage à un moment donné quand c'était défavorable, mais finalement, ça c'est le FC Barcelone qui a eu le dernier mot. Est-ce que c'est émotionnellement que la gestion a pêché?
Non.
Pas du tout. Je pense qu'on a géré bien les émotions. Évidemment, quand on concède un but et quand on joue à domicile, ça peut être vous donne des doutes. C'est un moment délicat, mais il faut s'habituer à ça. C'est une chose normale pour nous. Il n'y a pas de difficulté pour penser au match retour en Barcelone. Il faut penser que c'est une finale et il faut la gagner. C'est notre objectif. On va essayer d'améliorer quelques aspects, c'est logique. Mais comme j'ai dit avant, je félicite le Barcelone pour la victoire et pour sa performance. Je pense que nous pouvons avoir fait un travail mieux, mais maintenant il faut penser seulement au match de Barcelone.
Bonsoir coach, Arthur Perrault, RMC. Qu'avez-vous pensé de la prestation de Kylian Mbappé ce soir? On sait que depuis le début de cette campagne européenne, c'est un homme qui aime beaucoup les grands rendez-vous et c'est peut-être le premier grand rendez-vous à côté duquel il est passé. Merci.
Je ne veux pas parler d'un joueur individuellement. Je veux parler de l'équipe, je veux parler de mon travail. Je suis satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Bien sûr, il y a des choses qu'il faut améliorer, mais l'entraîneur, il est le responsable du résultat. Alors, il ne faut pas parler de joueurs individuellement.
Bonsoir. Philippe Sanfourche pour RTL. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée de départ, la construction de votre milieu de terrain et les raisons pour lesquelles vous avez préféré ne lancer Warren Zaïre-Emery qu'en seconde période?
Parce que la seule personne qui peut voir les sessions d'entraînement et qui veut tout, c'est moi. Alors c'est pour cela que je suis l'entraîneur. C'est pour cela que je travaille dans ce poste. Je pensais que les joueurs que j'ai choisis, ils étaient les meilleurs pour ce match. Évidemment, le résultat ne montre pas mon travail, mais j'accepte les critiques, j'accepte tout ça que la défaite implique. Je suis un professionnel, je suis un personnel sportif et je félicite l'adversaire et je me prépare pour le prochain match.
Bonsoir Louis, juste ici en face de vous. Djennadi Harris pour Foot National. Comment expliquer la fragilité sur les coups de pied arrêtés défensifs ce soir? Merci.
Mira, si repasamos todos los partidos de cuartos de final.
Le match de quart de finale. Hier, on a vu 10 bouts. Aujourd'hui, on a vu 5, 3 et 8. Alors, toutes les équipes sont fragiles. Est-ce que vous pensez que c'est vrai? Et on joue en haut niveau. Les différences sont vraiment petites. J'espère qu'on va gagner en Barcelone. Quand on joue dans ces niveaux-là, vous pouvez voir que tout le monde a un top niveau, comme on a vu de le Barça. Le résultat a montré qu'ils étaient mieux dans quelques aspects de jeu. Et nous avons la possibilité de marquer le troisième but. On a écrasé le ballon sur le poteau. On a perdu 3-2. Je pense que les gens veulent penser négativement, mais ce n'est pas notre cas.
Voilà, Luis Enrique. 10 secondes avant de rendre l'antenne et de revenir un petit peu plus tard sur ce que il nous a pas donné grand chose. Hein. Il a pas répondu à grand chose. C'est logique, c'est normal.
Non, mais pour Luis Enrique, il a quand même reconnu un petit peu s'être trompé quand même.
Sur une question
à demi mot.
Sur une
en
question
cas,
Philippe Sanforge.
Voilà. En tout cas, il a pas envoyé notre ami Philippe sur les roses.
Ok, très bien. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Bon bah, Paris aura toujours perdu, mais là c'est un moment là où vous prenez le contrôle de l'émission. J'aimerais avoir des messages, j'aimerais avoir des notes. Voilà, vous allez sur le site L'Équipe. Je précise que c'est gratuit, hein, pas de problème. Voilà, vous allez sur le site L'Équipe, vous déposez vos petits messages et vos notes. Dans quelques minutes, la suite de l'équipe du soir. Amis Marseillais, on aura quelques informations à vous communiquer parce que Marseille joue demain à Lisbonne contre Benfica. À tout de suite. Mes amis, nous sommes devant une mutinerie. Les chroniqueurs sont agacés. Pourquoi? Je vous fais cette confidence. Puisqu'on ne vous a pas encore parlé du match un peu pathétique, raté de Kylian Mbappé. Certains chroniqueurs me prêtent l'idée de défendre Kix, d'avoir une amitié, on va dire, secrète avec Kylian Mbappé. Mes amis, je ne connais pas Kylian Mbappé. Je respecte et j'admire ce joueur. Évidemment, on se connaît. Nous aurons un débat Kylian Mbappé dans quelques minutes.
Si on a le temps. Hein.
Si on a le temps.
On verra. Si on a, si
d'accord. Bon, bah, écoutez, vous êtes le protecteur de Mbappé, vous êtes président de l'équipe du soir. Mais Mbappé flop, c'est dans la rivière. Vous restez évidemment avec nous. Bac, si vous avez des questions à nous poser, vous allez voir Virginie sur le site évidemment, hein, pas physiquement bien sûr, puisqu'elle est avec nous, et vous posez quelques questions, des observations sur le match. Bertrand, c'est aussi un peu votre émission. Il dit, c'est tout, c'est terminé sur Luis Enrique, sur ses choix, sur ces choses comme ça. Non, on a encore un peu de dégagement. On est en direct jusqu'à 1h. Vous vouliez insister sur quoi ce soir, sur Luis Enrique? Moi, je pense qu'il n'est pas compris de ses joueurs.
Répondre à votre question. Ouais. Est-ce que vous retenez le
coaching ou la compo de départ?
Je retiens vraiment la compo de manière très catégorique parce que, pour moi, la mission d'un entraîneur, c'est de mettre ses joueurs dans les meilleures dispositions. Le plus possible, en tout cas. Là, on sait qu'aujourd'hui, son équation qui est difficile à résoudre, c'est que vous n'avez pas d'arrière-droit, puisque celui que vous avez est suspendu.
Hakimi ou Mukele.
Le remplaçant, qui ne joue jamais, c'est au passage, qu'on ne pourrait pas jouer sans doute, mais il ne peut pas jouer parce qu'il a pris un pet au casque. Mais vous avez donc Marquinhos, qui joue arrière-droit, mais il n'y a pas joué de toute l'année, quasiment, Marquinhos. Donc,
son premier match, c'est arrière-droit lorsqu'il rentre. On est au mois d'août.
Ça n'a jamais fait partie des options privilégiées quand Hakimi n'était pas là. Pour moi, c'est un premier choix qui est discutable. Non pas que Marquinhos soit passé à côté de lui, mais c'est-à-dire que s'il est à droite, par définition, il n'est pas ailleurs.
Bricolage.
Lucas Hernandez est amené à jouer un poste tout au long de la rencontre, que ce soit axe droit ou arrière droit, qui n'est pas le sien.
Il avait joué contre la Real Sociedad au match.
À ce poste-là aussi, tout à fait, mais ça avait plus marché. Ouais. Notre ami Beraldo, moi, je pense que c'est trop tôt pour le lancer dans ces matchs-là. Il lui fait confiance depuis qu'il est arrivé. C'est sans doute un très bon joueur, très bon défenseur.
Il faut avoir une équipe qui domine.
Mais je pense que c'est pas adapté. Pour ce qui est de Lee, Lille est jamais ou presque un titulaire indiscutable de cette équipe-là. Donc pour moi, il y a plus, et sans compter Asensio qui est inventé attaquant alors que ce n'en est pas un. Oui. Même si il lui a pas demandé de jouer comme Giroud.
T'as fait
entend bien. Mais donc pour moi, on est déjà à plusieurs joueurs qui sont pas mis dans les meilleures dispositions.
Moitié d'équipe.
Vous nous faites une
c'est pas mal quand même, non
Bertrand, c'est super. Vous nous faites une Bernard. Vous avez tout pris. Vous avez un truc à ajouter
Oui, parce que ça me fait un peu sourire quand on parle de coaching des entraîneurs, c'est-à-dire disant ouais, mais il a changé en cours de match. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où tu corriges ton équipe dans les grandes largeurs. À la mi-temps, il a changé quand même quatre positionnements de ouais. joueurs. Ça veut dire que tu t'es trompé sur ta composition de départ. Donc, il peut me nous raconter ce qu'il veut, Luis Enrique, mais les choix qu'il a fait, alors après, je comprends son ressenti, il est entraîneur, c'est lui qui était à l'entraînement, mais à un moment, nous, on juge sur le résultat, et même lui s'est déjugé à la mi-temps. Parce que sur 10 joueurs de change, je le répète, c'est beaucoup. Il a changé le positionnement de quatre joueurs.
Mmh. Ouais, mais après, tu peux voir un truc qui te va pas, que les joueurs ne sont pas au niveau que tu attendais, tu fais un changement dans le match, c'est pas très gênant.
Non, oui,
dans le
match.
Qu'il a fait dans la mi-temps.
Une correction.
Une correction par rapport à ce qui se passe. Quoi.
Quand tu vois que le match est en train de t'échapper, tu peux le faire en cours de match aussi. Hein. Tu es obligé d'attendre.
Oui, tu
peux.
Pendant la mi-temps.
Pareil, t'as la correction et la vue d'échec. C'est la vue d'échec à la mi-temps.
Est-ce que Luis Enrique, il ne doit pas déjà.
Cette proportion-là, oui, pour moi, c'est un aveu d'échec.
Depuis le début de la saison, essayer. C'est une équipe en reconstruction. Tu démarres ta saison, tu regardes les joueurs, tu apprends à les connaître, etc. Et puis tu essayes peut-être de dégager une équipe type, quand même, ça peut servir à quelque chose qui va te servir dans les grands matchs, et au moins qui va essayer de progresser. Moi, je trouve que les changements permanents qui sont parfois vécus comme des trouvailles extraordinaires et souvent aussi comme des flops, parce qu'il y en a pas mal, ben, finalement, tu arrives à ce moment-là de la saison et tu as très peu, voire quasiment pas de certitude. Je pense que c'est un problème. S'il avait dégagé une équipe type avec un système de jeu peut-être un tout petit peu plus classique que celui qu'il essaie à chaque fois de réinventer, peut-être ça passera un tout petit peu mieux.
Giovanni Castaldi en direct du Parc des Princes. On a été obligé de lancer la pub. Il faut bien payer vos montures de lunettes qui sont hors de prix.
Avocat, hein, de Louis. Il les a plus.
Ah oui, c'est vrai. Tiens, il nous fait une Timothée Mémon. Un coup, je les mets. Un coup, je suis mieux. Un coup, je suis bien. Mon petit Giovanni, la fin de la conférence de presse, il y a eu des grandes révélations. Il s'est battu la coulpe ou non, c'était Luis Enrique qui faisait un descriptif des buts, quoi.
Non, il s'est légèrement agacé sur la récurrence des questions sur comment vous expliquer que votre équipe menait 2 buts à 1 et que vous y avez perdu 3-2, sur peut-être les carences mentales. Il pense que ça s'est pas joué là. Il a passé son temps à féliciter le Barça en disant que c'était une grande équipe. Il était moins énervé que certains soirs de Ligue des Champions, mais on sentait qu'il se contenait. Sur ce qui est de ses choix et de ce qu'il fait, on a essayé de lui poser la question. Philippe Sanfourche, qui est chroniqueur de l'équipe du soir, lui a demandé est-ce que vous pouvez nous expliquer la raison, et il nous a répondu la raison, c'est que je suis entraîneur. Donc c'est toujours aussi formidable d'essayer d'avoir des explications tactiques et d'avoir ce type de réponse.
Lu souvent cet article dans la presse pour préparer le match, je lisais les articles. Comment Luis Enrique, l'architecte de la remontada, a changé Paris. Ce soir, le match s'est déroulé, Barça, Luis Enrique donc c'est plutôt on va dire planté. Là, le test est... Voilà, Luis Enrique n'a pas changé beaucoup de choses au Paris Saint-Germain, ou en tout cas, ces changements ne sont pas totalement compris, ou pas compris, ou pas du tout compris par rapport à ce qu'il veut, par rapport à la direction qu'il veut mettre. Est-ce que ce soir, il y a quelque chose, qui tombe là,
mais là oui, qu'on voit depuis le début de l'année, c'est qu'il n'a pas les joueurs, c'est qu'il n'a pas les joueurs pour jouer le football qu'il a envie de jouer. C'est tout.
Donc après...
Je suis désolé.
Donc, mais...
Enfin, je sais pas ce que...
Mais
je vois qu'il fait des grands gestes.
Mais c'est une erreur, alors. Donc c'est l'erreur de Luis Enrique.
Ah mais non, mais je pense que pour l'instant, il a pas les joueurs pour jouer le football qu'il a envie de jouer. Non,
mais en fait, il y a deux logiques qui se rencontrent. Il y a le coach espagnol, on va dire comme ça, le coach espagnol casse son idée propre sur le jeu, il va falloir rentrer dans la case. Et puis on va dire, il y a le coach français, il dit, tiens, qu'est-ce que j'ai comme matos? Bon, on va se dégoter, on va refaire...
Il n'y a pas le coach français, que le coach français.
Non, mais l'adaptation.
Général, qui s'adapte...
Oui, non, mais il y a de l'adaptation...
Après, Enrique, ce n'est pas la possession à tout.
Mais
ce n'est pas le Barça.
Qu'est-ce qu'il y a, Wadjo? Mais pardon, Joe, j'ai réveillé Joe. Wadjo.
Non, mais juste, le constat de Jérôme, il est formidable, implacable. Cette équipe, elle pourrait être dévastatrice en transition. Tout le monde, mais moi, il y a un mec qu'on ne cite jamais, je ne comprends pas, c'est Luis Campos. C'est-à-dire que il a pris des joueurs avec un ils ont pris un coach quand même, ils ont pris Luis Enrique, ils savent l'identité, ils savent ce que représente ce coach-là, et ils ont fait un recrutement à l'opposé des qualités de ton entraîneur.
Donc on peut parler de Luis Enrique, de ses choix, mais lui il est dans son style, il respecte son truc. Mais le mec qui a cramé plus de 350 millions d'euros cet été, qui a pris Ugarte pour 60 millions d'euros, qui est un joueur de récupération, qui est absolument pas un joueur de possession, qui a pris Colomoigny, qui est un joueur de transition, qui a pris Gonçalo Ramos, qui est un pur numéro 9, alors que Luis Enrique aime pas numéro 9, tout ça pour faire plaisir à son ami Jorge Mendes, on n'en parle jamais en fait de ce garçon-là. Il est en partie responsable de ce qu'on voit aujourd'hui.
Faites gaffe, il est derrière vous. Lui, renvoie la balle au club, en fait.
Oui, mais
la politique du club, général, la cohérence.
Moi, je suis d'accord avec ce que dit Giovanni là-dessus. C'est incontestable. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas non plus être trop méchant, véhément avec Luis Enrique.
Mais jusqu'à quand tu ne dois pas t'adapter?
Parce que pour moi, il a de toute manière pas une grande équipe et beaucoup de joueurs de classe mondiale. Ceci étant dit, et ce là où je veux quand même un peu l'incriminer, c'est qu'à mon avis, il répond pas au cahier des charges de construire la meilleure équipe possible cette année. C'est-à-dire qu'il s'évertue à vouloir rêver une équipe qui correspond pas à ses qualités. Ouais. Moi, c'est le seul reproche que je lui fais, mais qui, de mon point de vue, est moins important que les griefs qu'on peut avoir contre Campos, qui effectivement, c'est Campos ou le président, j'en sais rien, se sont beaucoup trompés, parce que là, les deux attaquants à 200 millions d'euros ou presque, bah, ils ont eu peu de temps de jeu ce soir encore, et c'est quand même des soirs pour briller normalement.
Au moins, est-ce qu'on pourrait faire mieux avec cette équipe-là en jouant autrement?
Moi, je pense que.
Et si t'es un grand coach, est-ce que tu peux changer ton dogme? Est-ce que tu peux sortir de ton cadre pour jouer un autre football meilleur sur une courte période, ça veut dire une saison, ce qui est très court dans la vie d'un coach, avec l'effectif
qu'il a. Lui ne veut pas y relancer.
Je pense que c'est un petit peu tout ce qu'on fait. C'est que, un, il n'y a pas l'effectif pour jouer le football qu'il veut, et deux, est-ce qu'il aurait pu faire mieux en jouant un autre football
en compte, ce que en compte, mais
on
je ne vais pas vous sortir
le match.
Mais
c'est quoi le football qu'il veut? C'est pas pareil, transition
rapide. Mais c'est quoi le football qu'il veut?
Mais il te l'explique. Lui, il veut pas des équilibres. Il veut pas que ça aille vite. Il veut pas 3-3, lui. Mmh. Lui, il te l'a dit.
Il veut pas de football
ping-pong. D'ailleurs, Marquinhos le dit aussi. Mmh. Rappelez-vous. Il dit, on voulait pas ce match-là. Ouais. Donc il a même.
Jusque la grande période de Luis Enrique au Barça, moi, je voyais pas un Barça qui avait forcément la possession. Il arrivait à alterner, à jouer du jeu de transition aussi. Et c'était la force de ce Barça-là. D'abord, à la fois une possession et à la fois un jeu de transition.
Mais dans le discours qu'il a depuis qu'il est à Paris, lui, il veut le contrôle du ballon, le contrôle, le contrôle, le contrôle. Moi, quand je vois le Real Madrid, alors l'effectif du Real Madrid est.
Mais les deux buts à Marseille, par exemple, c'est deux buts de transition.
Ouais, contre, oui,
complet.
Ouais. Bon, donc il ne veut pas uniquement.
Des fois, les événements du match l'amènent aussi.
C'est à Marseille, en plus, qui est dans ta surface.
Voilà, à marquer des buts comme ça. Mais quand tu vois le Real Madrid, qui a un effectif bien supérieur, évidemment, à celui du Paris Saint-Germain, Ancelotti. Il s'adapte à son effectif. Il s'adapte à ses deux attaquants. On a vu le match qu'ils font hier, Rodrigo et Vinicius. Mais ils font un match extraordinaire. Des fois, ils n'attaquaient qu'à deux, mais ils ont fait régulièrement ce type de match. Je veux dire, avec un effectif où il a deux joueurs fantastiques qui vont très vite devant. Et ben, ils se basent là-dessus.
Oui, mais
le Real Madrid n'a pas toujours eu.
Ils font pas que du jeu de transition. Ils alternent. Et moi, je pense qu'Enrique voudrait alterner. Il ne voudrait pas que du jeu de possession. S'il peut alterner avec jeu de possession et jeu de transition.
Il l'a en tout cas jamais dit.
Il veut avoir la maîtrise du jeu. Ok, mais ça ne veut pas dire que tu ne veux pas faire de la transition.
Marquinhos dit que le match était trop ouvert, ça répond bien à ce qu'il dit depuis le début de saison sur le fait qu'il veut une maîtrise la plus importante possible. Et pour qu'il y ait des contre-attaques, etc., il faut qu'à un moment donné, le jeu devienne un peu échevelé et que tu y aies moins que ça soit plus comme ça.
Il a même dit je ne veux pas jouer en contre, c'est trop facile.
Oui, c'était au avant.
C'est que jouer le
contre. Oui, c'est que jouer au contre. J'installe ma truc, je fume la pipe et j'envoie mes deux feuilles.
C'est ou blanc ou noir. C'est un truc alterné.
Non, mais il veut quand même maîtriser les Allemands, que son équipe maîtrise le tempo d'un match. Je pense qu'on est d'accord.
Oui, mais je pense que c'est
Giovanni, on va passer au journal dans quelques minutes. Après, il y aura le thème Mbappé, mais vous voulez conclure, Giovanni. On vous écoute.
Il veut pas aller se coucher quand même.
Non.
C'était pour donner. Je vais pas me coucher, Bertrand, t'inquiète pas. C'était pour donner raison à Joanne Micou. Il l'a dit, notamment après le match face à Lens, où il y a deux buts qui ont été marqués en contre. On lui avait posé la question sur, tout simplement, est-ce que votre équipe n'est pas une équipe de transition? Et il a dit que nous, on était obsédés par la possession, que lui, il voulait surtout tenir le ballon pour contrôler et que son équipe défende avec le ballon, mais que l'idée, c'était d'aller chercher à l'opposé pour offrir des situations de 1 contre 1 et accélérer dans les 30 derniers mètres. Pour lui, la possession, c'est plus maîtrise du tempo et la défense.
Okay. Merci beaucoup de cette précision. Dans quelques minutes, débat Mbappé. Je vous conseille de poster quelques messages sur le site L'Équipe. Autre match ce soir, c'est le dernier quart de finale aller. L'Atlético de Madrid s'est imposé contre le Borussia Dortmund 2-1. Grisou, passeur décisif. À vous de jouer, Virginie.
Ouverture du score rapide dès la quatrième sur une grosse boulette de la défense allemande. Kobel hésite sur son dégagement. Il joue finalement devant lui vers Madsen, mais la déviation est interceptée par Rodrigo De Paul qui a suivi. Oh. Le but du break, c'est Morata qui joue vite vers Griezmann. Wow. Il dévie de l'extérieur du gauche vers Lino. Le Brésilien contrôle et bat le gardien d'une reprise du plat du pied. Bah. Ça fait 2-0 jusqu'à la 81e quand Sébastien Haller, rentré 20 minutes plus tôt, réduit l'écart sur un ballon mal dégagé par Molina. Tir puissant du droit, Dortmund touche encore deux fois la barre sans parvenir à marquer. 2-1 pour l'Atlético.
Hein, d'où l'utilité de jouer toujours avec un avant-centre. Moi, j'ai vraiment été happé par le match du Paris Saint-Germain. Est-ce que vous avez jeté un œil à cette rencontre Et qu'est-ce qu'on peut en dire? C'est un bon résultat pour Dortmund.
Il y a une grosse balle au 3-0. Kobel fait un arrêt fantastique. Ça change le match. Est-ce que juste après, Haller marque?
Il y a un pénalty juste avant.
Il
aurait dû être sifflé pour le Borussia qui n'a pas été.
D'accord.
Je trouve qu'il y a eu une mi-temps pour chaque équipe. Enfin, l'Atlético a vraiment largement dominé la première. Et qu'en deuxième, Dortmund a eu des occasions. Et je ne sais pas si, excuse-moi, j'étais distrait. Il y a une barre ou un poteau à la 93e aussi.
Il y en a deux.
Ouais, tout le match. C'est vrai que l'Atlético, je trouve que son jeu s'est effrité plus le match a avancé. Voilà, ce que
un but d'avance pour l'Atlético. Ça passe ou ça passe pas un but d'avance pour l'Atlético. Hein.
Pas sûr.
Pas sûr.
Non, mais ça va être un bon match, je pense. Parce que les Allemands, ils vont aller vraiment pour aller marquer. Et Atletico, on sait très bien leur manière de défendre, donc ça va être intéressant à regarder. Quoi.
Il y a eu 18 buts dans ces quarts de finale aller. Comment vous l'expliquez? La faiblesse des systèmes défensifs, les systèmes offensifs qui prennent
trop d'entraîneurs espagnols. Bon, je m'en vais.
Pense qu'il y a le côté aussi de ce but à l'extérieur qui, entre guillemets, compte plus. Je pense que ça ouvre un peu plus les matchs. Si tu joues à la maison, tu prends un but, c'est pas très très grave quoi. Je trouve que c'est beaucoup plus ouvert par rapport à ça.
Mais on en a discuté, cette suppression donc du but à l'extérieur qui compte double, enfin qui prévaut en cas d'égalité. Étienne, pourquoi il était supprimé ce but-là en cas d'égalité?
Il a été supprimé pour deux raisons. La première, c'est qu'on avait observé donc à l'UEFA déjà depuis plusieurs saisons qu'en fait les grosses équipes jouaient pareil à domicile à l'extérieur, donc ça devenait un petit peu artificiel cette règle-là. Puis il y en a une autre qui est plus mercantile, c'est-à-dire que si vous supprimez cette règle-là, vous avez a priori plus souvent des prolongations. Les prolongations, c'est bon pour le spectacle, c'est bon pour le business. Les télés adorent ça.
Ok, bah oui, c'est bien. Ça, c'est
est-ce qu'il y en a plus? On le sait ou non?
Des prolongations.
C'est quoi la troisième année?
Statistiquement, c'est obligé.
Statistiquement, oui, parce que.
Là, ouais, mais non, mais je sais pas.
Avant, il fallait deux fois le même résultat. Là,
non, mais bien sûr, mais c'est pour ça que c'était pour savoir s'il y en avait plus.
Mais est-ce que les dernières, les quarts de
finale. Il y en a plus, mais on peut pas.
Dans l'absolu, il devrait y en avoir plus. Oui. Ouais. C'est pas sûr.
Mais est-ce que les dernières, en quart de finale, il y avait beaucoup plus de buts?
Non, moins.
Et moins de buts l'an dernier?
Ça défend bien. Vous trouvez que les systèmes. Je trouvais que c'est les équipes là qui sont le gratin européen. Vous trouvez que ça défend bien?
Non,
vous trouvez que c'est.
On a abordé déjà.
Ouais, mais je crois qu'on était en pub, mais.
C'était bien.
Non, mais oui,
c'est
en fait,
moi, le meilleur qu'elle
joue. Tout très bon pendant les pubs.
Ouais, c'est un peu.
Mais c'est ce qu'on dit. On dit Paris de toi depuis 15 ans.
Journaliste parisien. Non, mais un quart d'heure très très bon. Et après.
Allez, parlez sans émotion, Grégory Schneider, Bertrand Latour.
Non, mais je trouve qu'il y a peu d'équipes, même parmi les meilleures au monde, enfin en Europe en l'occurrence, qui sont capables de tenir un score. Et de défendre pendant une période, un match entier, tout en se disant on ne prendra jamais de but. C'est pas le profil d'équipe de City. En Angleterre, Liverpool, c'est la même chose. Arsenal également. Les équipes allemandes, c'est pas trop leur ADN non plus, sont plutôt des équipes qui sont portées vers l'avant. Là, c'est caricatural évidemment, parce que là on définit des équipes en fonction de leur championnat.
Il y a des postes qui sont en souffrance, hein, Bertrand. Les latéraux, là, je me sais que Didier Deschamps avait sorti un truc là au moment où il repeignait Hubert Sournier, mais lui voulait lancer un truc sur le niveau des latéraux français, je vois. Mais le poste des latéraux, c'est des mecs un peu hybrides, des mecs qui sont attaquants, tout ça. Il n'y a plus beaucoup de défenseurs de métier, quoi.
Ça fait 15 ou 20 ans
quasiment. La palissade, c'est un grand cliché, ce que
oui,
je dis.
Oui, ben, là, oui, excuse-moi.
Oui, mais si je fais fausse route.
Mais sur les centraux.
Des attaquants
sur les
centraux convertis.
On peut élargir le débat aux défenseurs centraux. S'il fallait établir de manière très définitive qui sont les 5 meilleurs défenseurs centraux au monde. Ben, je suis pas sûr qu'on aurait tous les mêmes. Hein.
Ok. C'est
vrai. Qui sont les meilleurs défenseurs du monde?
Potentiellement. Je pas dire, on a une dizaine de défenseurs centraux de très haut niveau, ce qui nous est pas arrivé depuis un moment.
Mes amis, on est en train de perdre du temps sur Mbappé. C'est ce que me glisse le président. Donc on va. Bayern-Arsenal,
je ne changerai pas mon avis. Hein.
Bayern-Arsenal, c'était hier soir. Un écho sur Gnabry, Serge de son prénom, buteur à l'aller, qui sera forfait pour le match retour.
La saison galère se poursuit pour l'international allemand. Il s'est blessé hier soir à l'Emirates. Il est sorti boitillant à la 70e, remplacé par Rafael Guerreiro. Sky Sport annonce une déchirure musculaire au niveau de la cuisse gauche, ce qui équivaut à une absence d'au moins 2 semaines. Il ne sera donc pas sur la feuille de match mercredi prochain à l'Allianz Arena.
On passe à la Ligue Europa avec l'Olympique de Marseille qui se déplace demain à Lisbonne, Benfica, dans une ambiance complexe, tendue. Hein.
Tendue parce qu'il y a un petit quiproquo, enfin un petit, il devient gros finalement. Mmh. La préfecture des Bouches-du-Rhône a décidé le 5 avril d'interdire le déplacement des supporters portugais à Marseille pour le quart de finale retour le 18. À la suite de cela, les deux clubs, Benfica et l'OM, ont fait un communiqué commun le 7 avril, donc dimanche, en disant qu'ils travaillaient ensemble pour que leurs fans soient autorisés dans les deux stades, à l'aller comme au retour. Sauf qu'il n'y a pas eu d'avancée ni de garantie depuis, donc les dirigeants de Benfica ont décidé hier d'annuler les billets des supporters marseillais. On va retrouver Candice Roland, qui est notre envoyé spécial au Portugal. Bonsoir Candice. Pablo Longoria a pris la parole à ce sujet. Quelles sont les dernières informations? Et puis, on fera un point compo juste après.
Bonsoir Virginie, le président marseillais qui était tout sourire lors de l'entraînement de ses joueurs sur la pelouse de l'Estadio Dalous, c'était en fin d'après-midi alors que quelques minutes plus tôt, vient un communiqué, il annonçait vouloir boycotter la rencontre face à Benfica si les supporters marseillais n'étaient pas autorisés à assister à ce match. On sait qu'en coulisses il s'active beaucoup, il est en lien avec Benfica et l'UEFA notamment pour trouver une issue favorable. Il a aussi reçu le soutien indirect de Roger Schmidt, l'entraîneur du Benfica, qui lui aussi appelle à ce que les supporters adverses puissent assister aux deux rencontres. Sur le plan sportif, en tout cas, la bonne nouvelle viendrait de la titularisation sur le couloir droit de cette défense de Chancel Bemba. Cette charnière centrale composée de, a priori, Samuel Gigot et Leonardo Balerdi, Quentin Merlin à gauche, Paul Lopez évidemment dans les cages, et puis le milieu de terrain à 3, Veretout, Kondogbia, Harit, ce qui permettrait de retrouver Pierre-Emerick Aubameyang dans le couloir gauche, Illimani Ndiaye à droite, et puis donc dans l'axe de titulariser Faris Mbagna.
C'est un manque de respect incroyable. Je trouve que c'est un manque de respect incroyable pour les supporters, que ce soit marseillais ou ailleurs. Parce que c'est pas j'y vais pas, c'est que les supporters marseillais.
Ils y sont déjà.
Tu vas à Lisbonne, t'en profites pour réserver les hôtels, tu vas rester 2-3 jours, et puis la veille ou l'avant-veille du match, on décide que tu n'as plus le droit d'y aller. Et je suis extrêmement surpris, déçu de la décision d'un grand club qui est le Benfica Lisbonne.
Benfica était également... Enfin, il y a eu un communiqué commun, quand même.
Oui, mais c'est pas...
essayer d'arranger les bidons.
D'accord, mais c'est pas une décision de l'Olympique de Marseille. C'est une décision de la préfecture de police, donc du gouvernement français.
Je veux dire, l'OM,
ils y sont pour rien, les Marseillais là-dedans. Et tu le fais payer à tes supporters.
Mais chacun joue sa partition. C'est-à-dire que Longoria dit, ben moi, puisque s'il n'y a pas mes supporters, je viens pas. Benfica dit, si mes supporters ne peuvent pas se déplacer.
C'est un coup de démago incroyable.
On interdit aussi.
On s'en fiche que le président.
C'est de la démagogie dans les deux sens.
Ouais, mais non, mais ce que tu punis les supporters.
Oui, j'ai bien compris.
Parce que ça coûte de l'argent d'aller à Lisbonne. Voilà. Et tu peux pas leur faire ça la veille ou l'avant-veille d'un match.
Il faut vraiment regarder les matchs de l'OM actuellement. Lille en C4 face à...
C'est une attaque personnelle.
Oui, non, mais c'est pas terrible en ce moment.
Jean-Louis Gasset va apprécier.
Oui, Lille en C4.
Il en est conscient, je crois.
En Ligue Europa Conférence.
Fils.
Face à Aston Villa. T'auras droit
au petit bonbon. Arrêtez. Ben. Piégé.
Lille en Ligue Europa Conférence face à Aston Villa. Un joueur important de Lille est de retour. Très important, ça.
Angel Gomez, qui était blessé aux ischios depuis fin mars. Il a repris l'entraînement collectif hier, n'était pas sûr de pouvoir faire le voyage demain. Le staff devait prendre une décision aujourd'hui. C'est fait. Il est dans le groupe. Il a pris l'avion avec l'équipe qui est au complet. Pour ce qui est de la compo, on aura très certainement Lucas Chevalier dans les cages. Défense à 4 avec Thiago Santos, Lenny Yoro, Ismaili et Alexandro Oudiakite. Benjamin André, Bentaleb au milieu de terrain. Haraldsson un petit peu plus haut. Zegrova à droite devant. À gauche, Cabela ou Gudmundsson. Et Jonathan David en pointe.
Ouais, ben voilà, c'est tranquille, c'est bien. C'est cohérent cette compo. Hugo Humbert en 8e de finale de Monte Carlo.
Il avait une carte à jouer face au Chinois Zhang Zizhen et c'est ce qu'il a fait. Il n'a pas traîné. Service gagnant pour terminer. Il a déroulé sur le premier set. Le début du deuxième a été plus compliqué, mais rien de qui ne l'ait fait douter. 6-1, 6-4. Sa place en quart se jouera contre Lorenzo Sonego. C'est fini en revanche pour Gaël Monfils. Pas assez de carburant pour tenir tête à Daniil Medvedev dans ce deuxième tour. Le Français a subi le jeu du Russe tout le match. Il menait pourtant 4-1 dans le deuxième set et puis plus rien. Medvedev s'impose 6-2, 6-4 et il jouera Khachanov pour les huitièmes de finale.
Cocorico. Oh, pardonnez-moi. Voilà, la poignée de main, la petite tape sur l'épaule. Cocorico, Benoît Cosnefroy remporte la flèche. Bravo en sol. J'ai salopé le lancement, je suis désolé.
Le Français s'est imposé en réglant un petit groupe au sprint pour s'adjuger sa 17e victoire professionnelle. C'était cet après-midi sur la chaîne L'Équipe.
Allez, le sprint, Tuns,
qui va lancer.
Blackmore devant Dylan Tuns. Quinten Hermans qui remonte. Quinten Hermans, Dylan Tuns. Dylan Tuns, Costefroy qui porte son effort.
C'est Benoît qui va gagner.
Benoît Costefroy qui va chercher la victoire. Et bien voilà, à nouveau une victoire française, à nouveau une victoire pour cette équipe d'Hécatlon à G2R, la mondiale. La victoire de Benoît Costefroy qui ici a réussi à prendre le devant. Les devants devant Quinten Hermans et devant Dylan Tuns.
Ski alpinisme, la France remporte le relais mixte à Cortina.
Non mais on passe à la NBA.
On passe à la NBA bien sûr. Non mais moi je tenais quand même à donner une information. C'est voilà, la France remporte le relais mixte. Ce sera juste une petite brève comme ça.
Tout à fait.
Voilà. Hein. Le nouveau carton de Wemby en NBA pour terminer cet excellent journal.
Encore une prestation tout terrain du rookie français. Il a écœuré les Grizzlies des deux côtés de leur parquet avec ses 18 points, 7 rebonds, 7 contres et 6 passes. Lay-up, spin. Dunk à une main, dunk à deux mains. Bref, il a fait le show à lui tout seul. Ce qui a permis aux Spurs de rouler sur leurs adversaires et de s'imposer largement 102 à 87.
Merci beaucoup. Évidemment, le Paris Saint-Germain qui est défait à domicile ce soir en quart de finale aller. Les images, succès du Barça, 3 buts à 2. Image résumée avec vous, Virginie.
Paris qui a d'abord été logiquement sanctionné après un début de match assez raté. Lewandowski pour Yamal à la 37e. Centre parfait de l'extérieur du gauche, c'est mal dévié par Donnarumma. Le ballon arrive sur Rafinha. Égalisation grâce à Dembélé à la 48e. Le crochet puis le missile du gauche pour enflammer le Parc des Princes. Le collectif parisien enchaîne avec Kanginli pour Ruiz qui donne à Vitinha pour son 8e but de la saison. Paris prend l'avantage. Mais le Barça revient sur une mauvaise relance de Donnarumma et une passe parfaite de Pedri, surtout pour Rafinha, doublé de l'attaquant brésilien. Il repasse même devant les Blaugrana sur un corner tiré par Gundogan, repris de la tête par Christensen. 3-2 pour Barcelone. On va écouter Luis Enrique qui analyse le match de qui ? De Kylian Mbappé.
Je ne veux pas parler d'individualité. Je veux parler de l'équipe et de mon travail. Et je suis satisfait de ce que j'ai vu aujourd'hui. Bien sûr, il faut améliorer des choses, mais l'entraîneur reste le principal responsable du résultat. Donc il ne faut pas parler d'individualité.
Eh ben, si l'entraîneur ne veut pas parler d'Mbappé, on ne va pas se gêner. Mbappé saute. Pour vous, ce soir, est-ce que c'est un mauvais match d'Mbappé ou un très mauvais match habillage Mbappé? On a perdu les droits, mes petits. On joue de malchance. Étienne Moati, c'est mauvais ou c'est très mauvais?
Très mauvais match.
Très. Monsieur Alonso?
Très mauvais.
Très mauvais. Monsieur Latour?
Très mauvais.
Très mauvais. Contrat pourquoi le très ou le mauvais, Bernard?
Très mauvais, on va dire.
Très mauvais, ouais, il y avait peut-être un ouais, d'accord. Président, très mauvais ou mauvais?
Très mauvais.
Très mauvais, ok. Je vais commencer par une citation. Il nous avait donné rendez-vous ce soir, c'était dimanche à Téléfoot, Kylian Mbappé. C'est le moment, parler de ce match, Marça, c'est le moment pour les grands joueurs, je suis prêt et je ne vais pas me cacher. Voilà, il avait voilà, fait une communication à la Kylian, toujours direct, franc, machin, cash, tout ça.
Si c'est pas caché, on a quand même eu un peu de mal à le trouver.
Oui, bah oui.
On va pas lui reprocher sur l'interview, mais...
Non, mais c'était, non, mais il avait mis la barre, en disant, voilà, vous allez voir ce que vous allez voir. Qu'est-ce que vous lui reprochez ce soir?
Bah, déjà, dans les duels, il n'a pas existé, il était face à un Koundé, il a perdu les trois quarts de ses duels, il a peu tiré, le peu de fois où il a tiré, il a cadré zéro fois. Donc, je veux dire, il a fait absolument aucune différence. Si ce n'est, on peut mettre cette action-là sur le premier but. Mm-hmm. C'est lui qui tire, là, et le ballon est repoussé sur Dembélé. Mais c'est vrai que c'est trop peu pour un joueur de ce niveau-là, à ce niveau-là, la compétition. Il y a toujours des grands matchs et grands joueurs.
Je suis en train de revoir le match de Mbappé. Je l'ai remarqué, on va dire, à trois reprises. 28e minute, Kylian Mbappé pour Kanginli. Ter Stegen est sur la trajectoire. Là, il est passeur. D'accord. On a une autre action que je n'arrive plus à voir, mais sur le but d'Ousmane Dembélé, vous l'avez rappelé, Bernard, c'est lui qui, on va dire, accélère et provoque une sorte de pagaille.
Il centre. Oui. Bon, après c'est Aurore qui rate son dégagement surtout quoi. Enfin, il est sur l'action. Enfin, il existe à ce moment-là.
Il existe. Non, bah oui, mais voilà.
Pas lui enlever. Oui, mais il enclenche. Je veux dire, enfin bon, là, c'est même pas notable.
Et à la 12e minute, pardonnez-moi, en début de match, Mbappé est en duel face à Arojo et Koundé. La frappe de Kylian Mbappé est contrée par Jules Koundé. À l'origine, il y avait la faute de Beraldo sur Rafinha.
Mais on est d'accord que ça, c'est vos notes
sur 90 minutes.
Ouais, bah ouais.
Mais c'est dramatique.
Et il note tout, hein.
Je oui, c'est bah, je note tout, je sais pas. Non, mais il y a peut-être un truc qui m'a échappé. De notable. Mais, bon, voilà. Oui, de notable, oui, oui.
Rien que ça, on a même plus rien à dire, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, sur un match.
On rentre, là, c'est bon.
Sur un match où tout le monde l'attend, ou même on pardonne qu'il soit passé à côté de France-Allemagne, de France-Chili et d'OM-PSG. Sous-entendu, non, laissez-le faire, vous verrez, il y a Barça qui arrive. Mais ça veut dire qu'en fait, moi, ma grosse déception ce soir, c'est pas Luis Enrique. Enfin, ma plus grosse déception, c'est pas Donnarumma, c'est pas la compo.
C'est lui.
C'est Mbappé, ma grosse déception de ce soir.
Là où tu peux être énervé, je suis d'accord avec toi, Jérôme.
Ah, je suis désolé.
C'est que Luis Enrique, les sorties, les laissées sur le banc, ça l'a déréglé.
Ouais, d'accord.
Il est sorti de sa saison, Mbappé.
Ah, mais ouais.
Avec l'annonce à ses dirigeants qu'il ne resterait pas au Paris Saint-Germain. Pourtant, on imaginait, on était tellement habitués à ce que Mbappé il résiste à tout et que, franchement,
il avait dit un journaliste en équipe de France.
Des trucs super difficiles et à chaque fois il répondait présent.
Il l'a perturbé.
Franchement, depuis, ça, on connaît donc le responsable de la faillite du football français, donc il est là, c'est ça. Mais plus sérieusement, là pour le coup, il est sorti de sa saison. On a l'impression à moitié qu'il a plus vraiment envie. Jérôme a cité les matchs en équipe de France. Qu'il est pour la première fois impacté par des événements extérieurs.
Ouais. Giovanni, vu du stade, c'était un naufrage également. Il n'y a pas de choses que vous aurez vues sur compensation, choses comme ça, travail sans ballon.
Il a fait un retour une fois, il a essayé de se battre, il a fait faute. Moi, ce qui me frappe vu du stade, je ne sais pas si Bertrand il a la même sensation quand il l'a vu avec les Bleus. Je trouve que physiquement, il n'est pas au top. Est-ce que c'est parce qu'il est perturbé psychologiquement? Mais je le trouve beaucoup moins tranchant, beaucoup moins saignant. On est loin de l'attitude du début de saison où je l'avais trouvé catastrophique, notamment à St. James Park où il avait eu un comportement déplorable. Là, je le trouve en fait absent. C'est ça qui est terrible. Il n'y a pas de réaction, il joue pas son rôle de leader, il est censé être un des cadres de cette équipe, je le vois pas s'énerver, je le vois pas parler à ses coéquipiers, il est assez effacé avec sans ballon, et ce qui me frappe le plus cette saison de Kylian Mbappé, c'est que c'est un joueur où on a accepté que sans ballon il ne joue plus. Voilà, c'est un joueur qui ne travaille plus sans ballon. Il se met en mouvement quand il le reçoit. C'est-à-dire que tout ce qu'implique aujourd'hui le football moderne, à savoir se déplacer, proposer, créer, surtout quand on a son volume, quand on a sa capacité athlétique, sa capacité de course, il ne le fait plus. Donc ça, j'arrive pas à l'expliquer, mais je trouve que c'est un énorme problème et c'est récurrent cette année.
Par rapport à ce que disait Jo tout à l'heure, par rapport à ce que d'autres font dans les grosses écuries européennes,
Vinicius,
à son poste.
Vinicius, Rodrigo.
On a vu tous les matchs qu'on a vus là depuis 24 heures. C'est là l'écart, il est énorme au niveau du travail, du repli, de la conception tactique, de l'attitude. Là, par rapport à ses concurrents au même poste dans les gros clubs, c'est ça qui fait mal.
C'est que Giovanni a dit qu'il ne joue pas sans le ballon. Il ne joue pas avec le ballon aussi. Parce que moi, je ne le trouve pas bon quand il a le ballon. Alors, à l'époque, les buts cachaient un peu tout ça, parce que on disait mais oui il a été décisif, il marque, etc. Là ça fait 6 matchs, il a mis un but, donc là ça commence encore plus à se voir. Et son attitude n'est pas celle d'un leader. Là quand on me dit on attend de lui qu'il soit le leader, c'est pas un leader, c'est un suiveur pour le moment, moi Mbappé. Quand en équipe de France, après il peut être leader technique ou un leader sur des actions. Mais là, il ne le fait pas. Donc, ce n'est pas un leader qui va amener tout le monde avec lui. Ce qui s'est passé en sélection, c'est qu'il y avait des leaders qui étaient dans chaque zone du terrain et qui lui ont permis de pouvoir s'exprimer.
Notamment Griezmann.
Et quand il est...
Quoi ? Notamment Griezmann.
Ouais, ou même avant avec Pogba, je pense que c'était Pogba, un vrai pilier. Ouais. Les Varane, les Lloris, tout ça. Donc, il y avait un mec à chaque ligne, donc ce qui permettait à l'équipe de pouvoir s'exprimer. Aujourd'hui, à son âge, il n'est pas un leader d'une équipe.
Jo, pardon, mais depuis les dernières séquences, les derniers matchs de Kylian Mbappé, sur l'équipe de France, sur le Classico, vous étiez ce soir-là sur le plateau de l'équipe du soir, en disant, pour l'instant, on va dire, c'est Mbappé, c'est pas terrible, mais on avait le sentiment, et vous aviez une certitude, que le mec avait coché des rendez-vous. Non, il avait coché notamment sur la Ligue des Champions. Et là, ce soir, là, on a vraiment la photographie, il n'est pas là.
Parce que c'est aussi par rapport à son attitude et son départ, on parlait de ça. On disait par rapport au départ, est-ce qu'il est raté ou pas. Moi, je disais que ces deux matchs-là, elle est très importante pour la fin de sa saison à Paris. Et il fallait un grand Mbappé pour pouvoir mettre un peu de côté ce qui s'est passé à Monaco, etc. Tout ce qu'il a fait, son attitude à Marseille, quand il fait la photo, etc. Mais Malheureusement, il n'est pas là ce soir. Donc, il va falloir qu'il soit un très grand Mbappé au retour. Et en qualifiant le PSG pour moi effacer ça. Sinon,
ça va être long.
Je pense que la fin de saison,
ça va être long.
Ça va être très compliqué, très long.
Il y avait, non, Étienne, je dis parce que vous avez dit quelque chose qui était très important aussi en disant, en annonçant Nasser El Khelaifi en février qu'il partait. Est-ce que lui, finalement, il a mis un terme à cette saison ? Est-ce qu'on peut se poser cette question ? La conséquence de l'annonce sur le rendement ?
Je trouve que pour la première fois, psychologiquement, je trouve qu'il
est pas là.
Quelque chose qui s'est passé. Il n'est pas là. Il est pas là. Et là, pour le coup, ce soir, c'était vraiment pour lui le rendez-vous de la saison. Ah, parce qu'il quitte le Paris Saint-Germain. Donc, en quittant le Paris Saint-Germain, il peut leur offrir quelque chose. Donc, c'est d'éliminer le Barça. Et en rejoignant le Real Madrid, s'il contribue... Et s'il met un triplé face au Barça, mais il arrive là-bas, mais comme une la star absolue avec des applaudissements.
Ah bon ?
Et pour l'instant, il a fait ni l'un ni l'autre. Mais il reste quand même le match retour.
D'accord. On marque une petite pause. Qu'est-ce qu'il y a, Bertrand ?
J'aurais aimé dire un mot.
Tu parleras à la pub, c'est tellement intéressant.
Après la pub, Bertrand Latour sur le match de Kylian Mbappé. Puis s'est passé de drôles de choses, des choses vraiment très peu recommandables en tribune ce soir. On ira voir Giovanni Castaldi qui nous racontera tout ça tout de suite. On parle de Mbappé ce soir un petit peu trop tard pour certains chroniqueurs de l'équipe du soir, mais bah, c'est tout l'intérêt de veiller tard et tout ça. Ah, le meilleur pour la fin. Merci Bernard. Virginie, à la une du jour de demain de l'équipe, ce serait-il pas le Kicks ?
Ben si, il va falloir remonter la pente avant le match retour. Une qui est dédiée à la fois au PSG et à Kylian Mbappé.
Ah, ça nous rappelle sa photo Instagram après son classico, là. Enfin, joli. Bertrand Latour, vous étiez désolé puisque la pub a retenti, vous n'avez pas le temps de parler du match de Mbappé. Qu'est-ce qui vous agace, vous rend triste, enfin,
c'est un naufrage. Non, ça m'agace pas, mais moi, ça m'inquiète plutôt. Parce que déjà, dès le match après l'Allemagne, pour moi, il n'était pas question de j'ai envie, j'ai pas envie, et sous-entendu, quand il décide, il fait. Quand il se rate contre l'Allemagne, qu'il va en conférence de presse pour vous dire vous allez voir ce que vous allez voir et qu'il est à nouveau mauvais contre le Chili, il n'est pas arrivé la veille pour passer pour un idiot le lendemain.
Ouais.
Et que quand ça recommence à nouveau à Marseille, où c'est le dernier potentiellement qui joue et qu'il est à nouveau remauvais, c'est-à-dire il s'est pas réservé que pour ce match-là depuis un mois.
Donc pourquoi il n'est pas bon ?
Donc il y a un vrai sujet, mais le vrai sujet, c'est c'est-à-dire qu'il ne gagne aucun duel, c'est-à-dire qu'il ne passe jamais. C'est-à-dire qu'avant, tu avais la certitude, parce qu'à la limite, j'ai fait le deuil de lui demander ce qu'on demande à tous les autres.
Défendre.
Mais j'en ai fait le deuil. Je dis pas que c'est bien, mais il l'a jamais fait. Donc, et vu qu'il l'a jamais fait et que depuis qu'il a 18 ans, on lui dit c'est pas grave. En tout cas, les entraîneurs a priori le disent tellement poliment que ça change jamais rien. Ça, j'en ai fait le deuil. Donc ça, je fais rideau. Ouais. On verra avec Ancelotti. Rideau. Mais en revanche, la garantie, ce qu'on exige, c'est marquer des buts et faire la différence. Et là, t'as ni l'un ni l'autre. Et j'accrédite pas du tout la thèse selon laquelle depuis qu'il a décidé de partir, il serait moins bien. Il y a un moment donné, si c'est l'homme que l'on croit depuis qu'il a 17 ans.
Qui se dépeint.
Et moi, je crois que c'est pas le fait de dire, d'annoncer un choix, pas officiellement en plus, qui est acté depuis des mois et des mois, qui est censé l'atteindre. Ou alors, en quel cas, faut tout redéfinir notre kiki.
Il y a un truc, il y a une piste peut-être, une intuition.
Moi, je pense qu'il y a un truc qui vraiment l'a heurté et auquel il s'attendait pas du tout. Et le truc qu'il n'a jamais connu depuis qu'il joue.
Le coaching de Enrique est sorti.
Je pense que ça. Il pensait que ça pouvait lui tomber dessus, et ça lui est tombé dessus, et je pense qu'il s'en remet pas.
Mais
il n'arrive pas à s'en remettre, selon moi.
Après, mais en bleu, il n'a pas été bon.
Donc, c'était pas.
Tu es en bleu avec Deschamps qui le calibre, machin, brassard, truc.
C'est un côté psychologique. C'est la première fois qu'on te dit, allez, dors.
T'es pas intouchable.
T'es mené 1-0 chez toi.
Ouais,
non. Mais là, tu prends des coups
de. Mais sur la psychologie de Mbappé,
je pense qu'il a jamais vécu ça. Donc, toute la psychologie.
Je suis pas d'accord.
Je pense qu'il a une grande force mentale, parce que c'est une de ses plus grandes forces. Mais je pense qu'il n'a jamais vécu ça.
Oui, mais c'est un truc à chaque fois qu'il a été dos au mur, et là tu ne peux pas être plus dos au mur que quand ton entraîneur, qui pour la première fois te sort dans un match, etc., avec l'orgueil qu'il a, avec l'ego qu'il a, tout le monde s'attendait, et moi le premier, à ce qu'il mette tout le monde d'accord, et que surtout sur ce match-là, où il est attendu par Paris, il est attendu par Madrid pour mettre une raclée au Barça, il fait rien.
Je prends qu'il le prend comme un affront.
C'est rassurant, parce que je pense que ça veut dire que c'est un être humain quand même.
Ouais.
Parce qu'à un moment donné, tu disais,
mec,
c'est comme ça. Et là, je pense qu'il a pris un coup dans son ego.
Ouais.
Et il a du mal à repartir. Parce que moi, je pense pas qu'il s'en foute et tout. Moi, je pense qu'il a envie de partir de la plus belle des manières.
C'est sûr.
Et je pense que ce soir, c'est pas quelqu'un qui s'en fout. Je pense que ce soir, t'as l'impression que il n'y arrive pas, quoi. Il n'arrive pas à trouver les trucs, il n'arrive pas à retrouver l'étincelle. Moi, c'est mon avis.
Marrant, je l'avais dit un peu sur le ton de la boutade, sur la gestion de nouvelles de Luis Enrique, mais qui n'était pas une boutade, parce que derrière, chaque trait d'humour, il y a une pensée profonde.
Oui, oui, oui.
Mais est-ce que ça, ça a aussi un peu pu le dérégler psychologiquement, et je pense qu'à ça, mentalement, mais physiquement aussi.
Mais à la machine.
Ouais, je pense pas que physiquement,
c'est tellement, non, mais c'est tellement des enfin,
vous le savez, je pense pas que vous avez été
vous avez été deux athlètes de très
fort. Tout à fait lié les deux. Non, mais je pense pas que physiquement.
Tu es tellement habitué
le trouve pas bien.
À tout jouer, encaisser.
Mais il dépasse plus, enfin, il fait plus de différence.
Donc, il est pas bon physiquement.
Il manque moins
de talent que. Du côté physique, qu'il arrive plus à faire une différence. Moi, je pense qu'il n'arrive plus à trouver le truc, quoi. Il est, je sais pas.
Bah, donc, il y a quelque chose de
mentalement. C'est que quand mentalement.
Moi, je pense que vos deux arguments peuvent être complètement liés.
Après, à repartir.
Ouais. Mais c'est complètement lié pour moi.
Et d'ailleurs, petite parenthèse, ça prouve bien que le coaching de Luis Enrique, c'est que de la flûte avec, hein. Parce que si il gère son équipe, merci, là, comme il le fait depuis, prétendument pour des choix sportifs depuis un mois et demi, il le sort. Il finit jamais ce match-là.
Ah bah,
et là, vu que ça compte, il l'a pas sorti. Donc, quand il le fait sortir dans des matchs de Ligue 1 où t'as 10 points d'avance, c'est pour se le faire plutôt que parce que vu qu'il est pas bon, je le sors. Parce que là, jour en vrai, il le sort. Il le sort à l'heure de jeu.
Giovanni, Bertrand, il a sanctionné à Asensio.
Tu le sors à Marseille.
Giovanni, j'ai une petite question à vous poser. L'impression visuelle de Mbappé. Vous suivez le Paris Saint-Germain pendant longtemps. Enfin, c'est pas la première fois que vous voyez un match de Mbappé. Ce soir, c'est comment? Quelle impression vous a-t-il fait?
Il est avec toi à la cave ou quoi?
Non mais je le trouve lourd en fait. Je trouve que par rapport à ce qu'on décrit sur les différences, je trouve qu'il a pas le coup de rein. Ça a jamais, moi, techniquement, été un joueur qui m'a transporté. Il a jamais le quart du dixième de la finesse de pied de Neymar ou de Messi. Ça a toujours été athlétiquement qu'il a fait des différences, et par sa vitesse, je trouve qu'il l'a moins cette saison. Alors peut-être que tout est lié, qu'il est moins bien psychologiquement et que ça a un impact. Mais voilà, je trouve qu'il est lourd sur le terrain. Je le trouve pas aussi agile, léger que j'ai pu le connaître sur les saisons précédentes.
Vous étiez à envoyé spécial. Il y a des choses qui nous reviennent ce soir sur le comportement de certains supporters barcelonais pendant cette rencontre. Je vous laisse la main. Racontez-nous.
Alors c'est une information de nos confrères de RMC. Dans le parkage des supporters barcelonais, il y aurait eu des saluts nazis et des cris de singes, donc évidemment déplorables, à vomir, tout ce que vous voulez. Voilà, donc cris de singes et saluts nazis dans le parkage supporters barcelonais.
Étienne, je me retourne vers vous par rapport à ça. C'est quoi? Ça va être des interdictions de déplacement, ça va être des amendes, ça va être. C'est quoi les conséquences de ça?
Oui, cet éventail là, ça arrive malheureusement sur d'autres stades européens. Et, bon, on peut s'attendre. Enfin, ils vont pas donner match perdu à Barcelone. C'est ça le sens de la question. Et en général, ça se traduit plutôt par des interdictions de déplacement de supporters.
Mais après, le Paris Saint-Germain est aussi à des stades, je crois, les mieux dotés au niveau des caméras de vidéosurveillance, etc. On peut espérer qu'il y ait des interpellations qui soient rendues plus faciles, puisque c'est dans un stade qui est très bien doté, plutôt que dans d'autres endroits. J'ose espérer, après peut-être qu'ils étaient cagoulés, je ne sais pas.
La plupart des stades qui accueillent des quarts de finale de Ligue des Champions, ils sont bien équipés au niveau caméra.
Oui, mais fort heureusement,
ils réussissent à identifier s'il y a eu des saluts nazis. Je pense qu'il y a forcément des images.
Dans la série des propos inqualifiables, autre histoire racontée cette fois-ci par Virginie.
Autre incident, c'est Lamine Yamal qui a été victime d'un commentaire raciste à la télévision espagnole avant la rencontre, donc pendant l'échauffement. L'Argentin German Burgos, qui est ancien joueur et adjoint de Diego Simeone à l'Atlético, a dérapé en commentant une image où le joueur était en train de jongler. Donc pour protester, les joueurs du Barça et ceux du PSG...
Mais qu'est-ce qu'il a dit, Burgos?
Alors, j'ai pas les termes exacts, mais il a dérapé et visiblement c'est raciste.
Dérapage raciste, qu'il
a
d'accord.
Dit. Dérapage raciste. D'accord. Donc, les joueurs du Barça et ceux du PSG ont décidé de boycotter le micro de la chaîne après la rencontre, de ne pas répondre aux questions.
Ok. Les notes de l'équipe du soir. À présent, c'est un mauvais match pour Mbappé, donc c'est deux pour Mbappé ce soir.
Très mauvais, c'est deux.
Très mauvais, c'est deux. C'est trois, mauvais ou deux, très mauvais.
On a dit très mauvais.
Mbappé, ouais. Très mauvais, trois, mauvais. Ah, bah oui, Bernard, hein, voilà. Et deux ou trois. Ok. On est à peu près dans les moyennes de nos téléspectateurs. C'est 2,8 la note ce soir de Mbappé. On peut enchaîner avec les notes, mes amis, en régie. Quel joueur voulez-vous qu'on note? Quelle est la note moyenne du joueur? J'ai Donnarumma, à peine mieux que Mbappé. C'est trois. Trois, deux, ouais. Ok.
Trois.
Ouais. Trois. Bah, il est à peu près coupable sur les trois buts, non? Parce que sur le premier, Yamal, il relâche un peu le ballon, non?
Sur le premier, je suis pas d'accord. Mais non, sur les deux autres, oui.
Ok. Bah, sur le premier, il la relâche.
Il la relâche.
Non, il veut la sortir.
Il est au bout du gant.
Et je pense qu'elle est touchée par Lewandowski.
Qui dit qu'il la relâche? Il est au bout du gant.
Il veut la sortir.
Après, qu'il n'y aille pas ou qu'il y aille différent, mais il ne la relâche pas du tout.
Non.
Il la dévie. Mmh. Après, Lewandowski la retouche en plus.
Je pense, ouais.
Mais l'anticipation, en plus, je trouve qu'elle n'est pas mauvaise parce qu'il va très très loin de ses... au-delà
parce
de ses
si Lewandowski ne la touche pas, il la sort.
Et oui, donc moi, sur le premier, je suis moins catégorique sur l'erreur. En revanche, évidemment, le troisième, pour moi, il me flingue soir. Alors, la relance au pied, évidemment, mais ça, on le savait. Mais pas sortir quand tu fais 2 mètres et que tu es Donnarumma sur un corner chez toi en plus. À 2 mètres de la ligne.
Et que le ballon tombe en
même moi, fébrile pendant le match. Des ballons qui relâchaient sur une frappe. À un moment donné, j'ai l'impression qu'il la relâche un peu. Un ballon corner, un corner aussi.
Oui, enfin, t'as l'impression qu'il va l'avoir.
Et puis il y en a une qui prend. Elle reste par miracle. Hein.
C'est ça le match. Nuno Mendes, Giovanni Castaldi, voulait nous parler de Nuno Mendes. Sa note, c'est 5,5. Il a la moyenne. C'est un match soit moyen, soit satisfaisant. Les chroniqueurs, préparez vos notes. On file voir Giovanni Castaldi. Vous lui mettez quelle note?
Je mets 6 quand même.
Ouais, je aurais mis 6 moi quand même à Nuno Mendes parce que je trouve que dans les temps forts parisiens, il a été extrêmement présent. Physiquement, il est sur une vraie montée en puissance. C'est un joueur qu'on définit comme être un formidable contre-attaquant. Je l'ai vu faire 2-3 séquences défensives de grande qualité. Il a un sauvetage sur la ligne qui est exceptionnel. C'est une des rares satisfactions ce soir sur du côté du Paris Saint-Germain et c'est encourageant pour la fin de saison parce que c'est quelqu'un qui peut changer le visage de l'équipe. Ça sera intéressant de voir comment ça va s'organiser quand Hakimi sera de retour parce que c'est deux latéraux qui sont très offensifs et la structure de Luis Enrique c'est quand même d'avoir trois défenseurs centraux et un latéral très libre, donc ça sera intéressant à voir.
Il faudra surtout qu'il travaille sur le milieu de terrain Luis Enrique pour le match retour, enfin bon, le petit conseil comme ça au passage. Merci Giovanni, très bonne soirée, très bonne nuit à vous, allez vous coucher, c'était parfait, c'était comme d'habitude. La note a été dégradée par Joël Micou, qui est parti sur un 6, finalement c'est un 5 parce que sur le deuxième but, sur la passe de Pedri sur Rafinha, vous le voyez un peu dans la zone.
Rafinha, je trouve ce qu'a dit Giovanni, je suis d'accord, mais après sur le deuxième but, je pense qu'il peut couvrir un peu mieux, quoi. Coulisser un peu mieux sur la transversale de Pedri, qui est magnifique, hein, tout est magnifique dans ce but. Mais
après, je trouve sévère, parce qu'il était vraiment... Il fait un match vraiment...
Pas un match.
Je suis d'accord.
Il est fort, il est bon dans les moments forts du PSG.
Non, mais je trouve que Giovanni a bien fait de le relever. Je trouve qu'il a progressé défensivement et ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai que c'est un joueur qui défendait mal comme beaucoup de latéraux et je trouve que là-dessus, il est devenu rugueux, il commence à progresser.
Ouais. Fin de cette équipe du soir sans couilles, je suis désolé. Bah oui. L'émission est trop courte. Bernard me disait, mais pourquoi, Mémé, tu finis pas à 1h30 du matin? Cet avis sera pris en compte dans, je sais pas, quelques semaines, peut-être qu'on terminera à 1h du matin, qu'on pourra faire le quiz avec tonton Bernard.
Ça, par contre, tu seras seul avec lui.
On me dit rapide, on vous embrasse. Demain, la maison est toute verte. Demain, c'est l'Olympique de Marseille et Lille qui peuvent éventuellement nous rassurer, nous sauver un petit peu le moral qui t'emmerde ce soir. On vous embrasse et à demain. Life is good.